Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous. C'est parti pour la journée ensemble et cette matinale jusqu'à 9h. Nous sommes le mardi 7 juillet, journée décisive pour Marine Le Pen. La présidente des députés RN à l'Assemblée pourra-t-elle se présenter à la prochaine élection présidentielle? La justice doit trancher aujourd'hui dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Un jour important, hors norme, voilà ce qu'écrit Jordan Bardella hier soir. Lui qui sera donc le candidat si Marine Le Pen est empêchée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Ce matin, je veux vous entendre. Est-ce que c'est à la justice de décider qui peut être candidat ou pas? Est-ce que si Marine Le Pen est d'ailleurs condamnée mais pas inéligible, vous considérez que ça a un impact sur votre vote? Quand la candidate est créditée de plus de 30% des voix dans les sondages, est-ce que les juges doivent aussi prendre part dans ces décisions? Vous venez vous exprimer, vous venez débattre. Ça passe par le 3216 et vos messages sur le WhatsApp 0612 424 424. Je poserai la question à Benjamin Morel, le constitutionnaliste, à 7h40, mais aussi la question des conséquences politiques au président des Républicains et candidat pour 2027, Bruno Retailleau. Il sera mon invité à 8h30 dans le face-à-face. Et puis dans 10 minutes, on va revenir sur ce séisme dont on vous parlait hier matin. Cédric Jubilard a finalement avoué dans une lettre avoir tué son épouse Delphine. Soulagement pour ses proches, c'est ce que nous dira l'avocate des enfants du couple. L'avocate des enfants du couple qui a choisi RMC pour réagir. Elle sera dans ce studio dans un peu plus de 10 minutes. Et puis ce matin encore, RMC vous fait gagner vos prochaines vacances, n'oubliez pas. On va jouer dans la demi-heure qui vient. Donc restez très très à l'écoute de ces vacances Bellambre. Dans un instant, le journal de 7h, mais tout de suite la météo, Géraldine. Les deux tiers du pays sont en vigilance orange canicule.
Oui, 61 départements en vigilance orange canicule, donc jusqu'au Finistère et au bassin parisien. Il y a aussi une grande partie du pays qui est en danger élevé, voire très élevé, de feux de forêt. Les températures attendues cet après-midi jusqu'à 40 degrés pour Bordeaux, pour Poitiers, 39 à Toulouse, 38 à Nantes, Bourges, 37 à Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand ou Perpignan, 36 à La Rochelle, 35 à Paris, 34 à Marseille, Montpellier, 32 à Brest, 30 à Lille, et cette vague de chaleur qui va se poursuivre toute la semaine, avec en plus demain à noter le retour du vent sur le Languedoc-Roussillon et les températures qui vont assez peu évoluer dans les prochains jours, et donc cette vague de chaleur qui devrait durer au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine.
C'était la météo sur RMC. Bon réveil avec Apolline Matin.
Il est 7h, passé de 1 minute. Excellent réveil sur RMC. C'est le journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une femme méprisable, indigne de sa fonction. Réponse de Kylian Mbappé à l'attaque raciste d'une sénatrice paraguayenne. Elle lui répond ce matin et lui demande des excuses. Sera-t-elle candidate à l'élection présidentielle? L'avenir politique de Marine Le Pen s'écrit ce mardi. La Cour d'appel de Paris rend sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Et trois départements en vigilance rouge, feu de forêt, alerte maximale à l'heure où le sud de la France est déjà en proie aux flammes, avec des milliers d'hectares partis en fumée.
Soutien unanime à Kylian Mbappé.
Cible d'attaque raciste par une sénatrice paraguayenne, Celeste Amarilla. Elle s'en est pris au capitaine tricolore en marche des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de l'équipe de France face au Paraguay. Elle parle de lui comme d'un Camerounais issu de la colonisation, s'efforçant désespérément de passer pour un Français. Des propos qui ne passent pas et les réactions sont nombreuses. Dernière en date, Fabrice Hawkins, celle de Gianni Infantino.
Oui, le président de la FIFA condamne sans équivoque les propos racistes de la sénatrice. Le monde du football et la société tout entière sont solidaires du capitaine de l'équipe de France. Un peu plus tôt dans la journée, Kylian Mbappé s'est défendu sur le réseau social X. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay. Quelques lignes qui ont une résonance mondiale. Les réactions qui suivent témoignent de la force de frappe et de l'influence du buteur. En déplacement en Syrie, le président de la République vient au soutien du joueur du Real Madrid qu'il connaît personnellement. Un but de plus pour Kylian Mbappé. Contre le racisme, cette fois, tout mon soutien assure Emmanuel Macron. La sénatrice est même désavouée dans son propre gouvernement au Paraguay. Dans la délégation de l'équipe de France, tout le monde est choqué. Les joueurs ne comprennent pas comment une femme politique peut s'exprimer de la sorte en toute impunité. Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, résume en trois mots la pensée des Bleus sur cette histoire. Indigne, abjecte et scandaleuse.
Et ce matin, dans une lettre ouverte à Kylian Mbappé, la sénatrice tente de s'expliquer, évoquant ses passages en France, des réveillons à Courchevel et Saint-Tropez, dit-elle. Elle dit adorer visiter la France, évoquant un problème d'ordre personnel avec Kylian Mbappé, lui réclamant des excuses, le menaçant de poursuites. Le foot sur le terrain, avec la qualification de la Belgique cette nuit, tombeur des États-Unis 4-1 en quart de finale, les Diables Rouges retrouveront l'Espagne qui a dû batailler pour venir à bout du Portugal de Cristiano Ronaldo qui annonce avoir joué son dernier mondial 1-0 en faveur des Espagnols.
Il est 7h03 sur RMC, une décision qui peut tout changer.
Celle de la Cour d'appel de Paris qui doit trancher cet après-midi l'avenir politique de Marine Le Pen, rejugée dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Le parquet général a requis la même peine qu'en première instance, 5 ans d'inéligibilité, mais aussi une année de prison ferme aménagée sous bracelet électronique. Sébastien Krebs, chef du service politique, nous rejoint. Si la Cour suit ses réquisitions, la chef de file des députés RN ne pourra pas se présenter à la présidentielle. Et même sans ça, Sébastien, le chemin d'une quatrième candidature est plus escarpé que jamais.
Oui, il faudrait un sacré revirement pour que Marine Le Pen puisse finalement concourir. Elle, qui en première instance a été condamnée au motif qu'elle était à la tête d'un système visant à détourner l'argent du Parlement européen pour rémunérer des assistants qui travaillaient en réalité pour le parti. Elle a bien changé de stratégie en appel, plaidant cette fois la bonne foi, estimant qu'il y avait une zone grise. Est-ce que cela sera suffisant? Une relaxe serait un coup de tonnerre. Le scénario espéré par le camp Le Pen, c'est plutôt celui d'une peine atténuée sur deux points essentiels. L'inéligibilité, 5 ans requis, il faudrait que les juges la ramènent à 2 ans maximum. Elle l'aurait ainsi purgée avant la présidentielle. Et puis, il faut éviter la prison ferme et ce bracelet électronique qui l'empêcherait de faire campagne. Et encore faut-il que le parquet ne conteste pas cette décision devant la Cour de cassation. L'un de ses plus proches résume, pour elle, c'est vertigineux, c'est l'engagement d'une vie qui peut être stoppée aujourd'hui, même si, face à son entourage, Marine Le Pen, elle, ne montre rien et s'affiche sereine, répétant qu'elle refuse de stresser pour quelque chose qui lui échappe. « Je n'ai pas peur », disait-elle ces derniers jours.
Et quoi qu'il en soit, Sébastien, Marine Le Pen prendra sa décision dans la foulée.
Oui, candidate ou empêchée, les deux scénarios sont écrits pour les prochains jours. Tout a été décidé en très petit comité, certaines choses en tête à tête avec Jordan Bardella pour éviter les fuites. Marine Le Pen aux 20h ce soir pour sa première déclaration. Si les conditions ne sont pas réunies, elle lui passera immédiatement le flambeau avec la volonté de ne pas épiloguer sur les juges pour que la campagne commence très très vite.
Sébastien Krebs, chef du service politique RMC, retour ce matin sur les aveux de Cédric Jubilard. Il a reconnu sa responsabilité dans la mort et la disparition de son épouse Delphine en 2020. Il le dit dans une lettre adressée à ses avocats. L'un d'eux réagit dans une interview accordée à nos confrères de BFM TV. Maître Guy Dubuisson évoque une dispute qui a mal tourné.
Ce qu'il nous a dit, c'est que c'était pas du tout un meurtre. Il n'avait pas du tout, bien sûr, l'intention de tuer son épouse dans un appartement ou dans une maison où il y avait deux enfants en train de dormir. Et la suite, c'était quoi? C'était ou appeler immédiatement la gendarmerie ou la police en disant, bon, ben, j'ai fait une bêtise, voilà ce qui s'est passé, je crois que mon épouse est décédée, venez vite. Ou au contraire, dans un moment de panique, ce qu'il a fait, tenter de se réorganiser différemment et de faire en sorte que, provisoirement ou définitivement, le corps de Delphine disparaisse pour ne pas que les enfants se réveillent en voyant le cadavre de leur mère. C'est l'explication qu'il fournit.
Et de nouvelles révélations qui pourraient relancer les investigations et de fait retarder le procès en appel de Cédric Jubilard prévu en septembre.
RMC 7h06, l'incendie des Pyrénées-Orientales n'est toujours pas fixé ce matin.
Il est cependant stabilisé à plusieurs endroits. C'est ce que dit Laurent Nunez en déplacement sur place hier, évoquant une dizaine de blessés. 4900 hectares ont déjà brûlé, obligeant les autorités à évacuer plus de 12 000 personnes. Des habitants d'une vingtaine de communes alentour, 10 sur tête, appelés à ne pas regagner leur domicile, consigne pas forcément respecté.
Ma mère, elle était des problèmes à se déplacer, et comme elle avait pas trop envie de partir, on est resté là. J'ai reçu l'ordre d'évacuation, mais comme on s'est dit que ça risquait rien, et puis au pire, si jamais ça empirait, on serait parti. Tant que les flammes elles rentrent pas vraiment dans la ville, je pense je vais rester ici.
Et là, je suis venu pour prendre mes affaires et partir, hein, parce que les pompiers voulaient pas, et j'ai dit pour prendre mes affaires, voilà.
Donc là, vous emballez quoi exactement?
Eh ben là, j'ai pris les matelas, le lait, les sacs, les papiers, les couches de bébé, le lait, tout ça. Et après, on s'en va.
Et 3 départements sont ce matin en vigilance rouge. Feux de forêt, plus de 60 sont également concernés par une vigilance à la canicule. On a relevé plus de 40 degrés hier dans plusieurs départements de la moitié sud. Les températures devraient continuer de grimper ce mardi après une hausse de la mortalité. En juin, les professionnels de santé sont sur le pont, plus mobilisés que jamais, quitte à adapter leur planning. C'est le cas de cette infirmière libérale, suivie dans sa tournée du côté de Blanquefort en Gironde par Philippine Boulet.
Mallory, infirmière libérale, arrive chez Françoise, 76 ans. Sa patiente l'accueille dans la pénombre, volet fermé.
Vous avez
des
nouvelles, les enfants ?
Depuis vendredi, plus aucune nouvelle.
Avec la canicule, les visites de l'infirmière se multiplient, 2 à 3 fois par jour contre une habituellement.
C'est très important, quoi. On apprécie.
En période de canicule, les fragiles sont d'autant plus fragiles puisqu'ils s'isolent plus. On ne repère plus quand un voisin n'ouvre plus ses volets puisque c'est normal de ne plus ouvrir ses volets vu qu'il fait chaud.
Quelques kilomètres plus loin, à peine arrivée chez Jacqueline, l'infirmière lui sert un grand verre d'eau. Cette patiente de 85 ans a perdu 4 kilos depuis la dernière canicule.
Elle est trop fatiguée pour manger. Habituellement, elle ne passe pas toute sa journée dans le lit dans sa chambre. Elle fait des activités extérieures avec son auxiliaire de vie. Même accompagnée et à la fraîche, là, elle n'y arrive plus.
Alors, Mallory lui donne un coup de main au-delà de ses soins habituels.
On passait chez elle entre 11h et midi, et donc là, on passe entre 7h moins le quart et 7h30. On ouvre tous les volets, les fenêtres, pour faire un courant d'air le temps des soins du matin.
Fatiguée par des journées à rallonge, l'infirmière espère que cet épisode de canicule ne durera pas trop longtemps.
Une chaleur que les coureurs du Tour de France vont devoir dompter. 4e étape entre Carcassonne et Foix avec un nouveau maillot jaune. Déjà sur les épaules de Tadej Pogacar qui a fait coup double hier en s'imposant aux Angles.
Merci Thibaut. Thibaut Texer, il est 7h09, c'est l'heure de vous offrir vos vacances sur RMC. Souvenez-vous, jusqu'à vendredi, on vous fait gagner vos prochaines vacances. À la mer ou à la montagne, vous remportez un séjour d'une valeur de 2 000 € dans les clubs et hôtels Bellembrun qui est spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Vous allez pouvoir choisir parmi 45 destinations dans les plus beaux endroits de France où Bellembrun s'occupera des enfants, des activités et des repas. C'est le tout compris premium et c'est ça qu'on vous offre sur RMC pour remporter votre séjour Bellembrun. Vous envoyez dès maintenant vacances au 7-32-16. Vacances au 7-32-16. Bonne chance à tous.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bellembrun. Bellembrun Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il y a quelques semaines, il m'a dit, écoutez maître, il faut que je vous dise la vérité, c'est moi. C'est moi qui suis à l'origine de la disparition de ma femme. Et c'est dans le cadre d'une énième dispute conjugale que les choses ont mal tourné.
L'homme que vous entendez, c'est Pierre Dubuisson, l'un des avocats de Cédric Jubilard. Il a donné quelques explications hier après le revirement de son client. Oui, Cédric Jubilard a bien tué son épouse Delphine en décembre 2020. Bonjour maître Malika Chmalini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio ce matin. Vous êtes l'avocate des enfants de Delphine et Cédric Jubilard. Pour ces enfants, c'est un véritable soulagement. C'est votre parti pris, vous nous le dites et vous nous donnez leur réaction dans un instant sur RMC. 7h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Après plus de 5 ans de déni, Cédric Jubilard a fini par avouer le meurtre de sa femme Delphine en décembre 2020. Bonjour maître Malika Chmalini.
Bonjour.
Vous êtes l'avocate des deux enfants du couple Jubilard, Louis et Elia. Ils sont âgés de 11 et 7 ans aujourd'hui. Ils vivent avec leur tante. Et ce matin, vous nous dites qu'ils sont soulagés. Comment vont-ils ?
Je crois qu'ils sont sous le choc, comme nous tous, hein, puisqu'on a appris cela par la presse. Je crois qu'ils sont soulagés parce que ça fait des années qu'ils demandent à leur père de dire la vérité. Donc c'est une première étape, mais maintenant on attend la suite. Hein. On a eu des aveux, j'ai envie de dire, de la part des avocats, mais on n'a pas de déclaration écrite, on n'a pas de choses qui ont été retranscrites, on ne sait pas où est le corps, donc maintenant il faut avancer.
On se souvient des mots du fils du couple qui ne dit plus papa, qui dit monsieur à propos de Cédric Jubilard et qui lui demandait instamment lors du dernier procès, non seulement d'avouer mais de dire aussi où était le corps. Il avait besoin, disait-il, de pouvoir se recueillir, de pouvoir avoir une tombe pour sa mère. C'était essentiel et ça fait partie de ce que peut-être Cédric Jubilard va enfin permettre.
Oui, il est temps. Je tiens à préciser que le mois dernier, je l'ai vu, Cédric Jubilard, devant un juge des enfants, et je lui ai posé la question, parce que lui, le mois dernier, me demandait aussi de demander encore à son papa où est le corps de maman, en fait. Hein. Donc à ce moment-là, Cédric Jubilard n'a pas répondu.
Il ne vous a pas répondu, c'est-à-dire que vous êtes face à Cédric Jubilard dans le cadre d'un de ces moments où il doit répondre devant le juge des enfants. Vous lui dites, votre fils demande
Et il ne répond pas.
Il ne répond pas. Donc voilà, c'est dommage. Maintenant, on avance, mais il faut avancer un peu plus vite. Moi, j'ai envie de dire, je m'inquiète pour ces enfants parce qu'on les a préparés à une échéance. L'échéance d'un procès, ça permet d'avancer.
Donc un procès qui devait se tenir, ce procès en appel, en septembre, et vraisemblablement, il sera repoussé.
Oui, mais je le crains.
Ça, vous le craignez?
Je le crains, bien sûr que je le crains, parce que ça fait des mois qu'on les prépare, ces enfants. Ça fait des mois qu'ils disent quand est-ce que ça va s'arrêter. Un procès, c'est un statut de victime. Une reconnaissance, c'est bien si elle est totale et entière, hein, parce que aujourd'hui, on connaît pas la position précise de Cédric Jubilard. Et c'est le début d'autre chose. Aujourd'hui, les enfants, ce qu'ils se disent, c'est s'il y a un procès, après, est-ce que ça s'arrête? Donc maintenant, il y aura pas de procès. Donc ça veut dire que c'est encore de l'infini, de la confusion dans l'esprit de ses enfants. Donc oui, je regrette que ces déclarations viennent juste 2 mois avant un procès. Voilà, je pense que si on est dans l'intérêt des enfants, peut-être qu'on se serait questionné peut-être quelques temps avant. La manière aussi de recevoir cette information, je crois que peut-être un courrier adressé à la famille ça aurait permis de faire mieux les choses, parce que ces enfants, ils sont au quotidien confrontés à tout ça.
Je suis très frappée dans votre réaction, Maître Malik Hashmani, par le fait que, au fond, vous dites, certes, il avoue, mais on l'entend que vous le dites, il n'avoue pas pour les enfants, il n'a même pas répondu aux enfants. Les mots, d'ailleurs, de Cédric Jubilard, on ne les a pas, comme vous le dites, oui. Puisque les avocats évoquent ce qu'il a dit, mais n'ont pas lu la lettre à proprement parler. Au fond, vous estimez qu'il n'est, encore une fois, pas un père.
Alors non, je me permettrai pas de dire cela, parce que depuis un an quand même, je le dis, il a écrit à 4 reprises à ses enfants. C'est quelque chose de nouveau. L'an dernier,
ça c'est nouveau.
Oui, c'est nouveau. Il a fait l'effort, j'ai envie de dire. Alors il est pas trop en demande, il n'exprime pas grand chose, mais il y a des lettres qui sont reçues positivement pour les enfants. Voilà, les choses elles évoluent.
À un moment où on le reprécise, Cédric Jubilard a été déchu de son autorité parentale.
Il a été déchu de l'autorité parentale, mais il a relevé appel et du coup, ce n'est pas exécutoire. C'est pour ça qu'il a été convoqué devant la magistrate, qui lui expliquait que la prochaine fois, s'il était encore déchu, elle ne le convoquerait plus. Donc aujourd'hui, il fait partie de la vie de ses enfants. Il a écrit à plusieurs reprises. Ça a été reçu positivement, mais derrière, il n'élabore pas. Il n'élabore pas, il s'exprime pas. Donc voilà, je prends tout ce qui est bon à l'intérêt des enfants. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il reconnaît. Parce que moi, j'entends qu'il faut pas employer le mot de meurtre, en fait. Donc, je sais pas ce qu'il reconnaît, Cédric Jubilard. Moi, j'attends de voir. On va me parler d'accident. Je crois qu'il faut pas réécrire l'histoire. Pas cette histoire qu'on a depuis 5 ans. Si on réfléchit à tout ce qu'il a pu dire avant, je vois pas comment on peut partir sur des coups mortels et ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Parce que c'est ce qui se profile.
C'est ce qui se profile. Et c'est ce qu'en tout cas, visiblement, vont vouloir plaider ses avocats.
Sûrement.
Qui disent, qui laissent entendre que c'est une dispute qui a mal tourné, qu'il ne voulait pas la tuer. C'est cette musique-là que vous entendez derrière les mots des avocats.
Moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut pas utiliser le mot meurtre. Alors du coup, on n'est pas sur ça. En tout cas, on parle paradoxalement de crime passionnel. Enfin, moi, j'ai lu un dossier et c'est un féminicide. Le crime passionnel, ça n'existe pas, ça n'existe plus. On a Delphine Jubilard qui a essayé à un moment donné de sortir de l'emprise de Cédric Jubilard, qui, parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre qui voulait partir, et voilà, elle a été empêchée de cela jusqu'au bout, il a empêché.
Maître, vous avez dit que pour l'intérêt des enfants, le fait de repousser ce procès serait quelque chose qui va les troubler, puisqu'ils sont prêts à cette échéance. Du point de vue de la défense de Cédric Jubilard, ils disent désormais, nous avons ces éléments-là, il faut mécaniquement que la justice repousse ce procès. Quel argument vous pouvez avoir vis-à-vis de la justice pour leur dire, non, maintenez la date prévue?
Alors les enfants, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur maman, ils ne la retrouveront pas, donc ils gagneront rien de tout cela. Ils ont leur père qui est incarcéré, ils ont refait une vie. Aujourd'hui, cette affaire est extrêmement médiatisée, on en a beaucoup parlé, on les a préparés. J'étais pas favorable à une date en septembre, parce que c'est la rentrée des classes. Donc cette date a été fixée, donc on les a préparés à cela. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on remet une échéance et qu'on va être baigné de tout cela encore pendant des mois. Et je crois, dans l'intérêt des enfants, qu'il faut travailler travailler vite, alors bien. Alors, je suis pas naïve, peut-être que ce sera pas possible, mais qu'on essaye au moins de tenir le calendrier. Et je regrette, parce qu'on parle beaucoup de l'intérêt des enfants depuis hier, je regrette qu'on n'ait pas pris plus de précautions et que peut-être des révélations un peu plus tôt auraient permis une certitude sur une tenue de procès.
Je vous pose encore une question sur la question de l'autorité parentale. Il en a été déchu, ça faisait partie de la peine qu'il a reçue en première instance. Les enfants souhaitent-ils que leur père reste officiellement leur père ?
C'est une question compliquée. Alors, il y a une enfant qui a aujourd'hui 7 ans. Je crois que c'est trop compliqué pour elle. C'est pour ça qu'elle a un administrateur ad hoc. Aujourd'hui, on a des enfants qui craignent qu'une chose aussi, c'est que si jamais ça s'arrête, c'est qu'à un moment donné, papa puisse venir les récupérer. Donc voilà, ça répond en partie à votre question. C'est-à-dire que les enfants, ils sont bien aujourd'hui avec un cadre qui est extrêmement bienveillant, un oncle et une tante. Et c'est pas parce que aujourd'hui les choses ont changé, parce que j'ai entendu dire que Cédric Jubilard voulait récupérer ses enfants. C'est quelque chose qui va mettre en panique. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Les enfants, ils vont être en panique. Et c'est une question qui a pu être posée à un moment donné par l'aîné. C'est qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, il reconnaît et il sort ? Voilà, c'est la panique à bord, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que cela. Aujourd'hui, l'intérêt des enfants, c'est de rester là où ils sont, parce que ils ont grandi avec des violences, de la violence physique, de la violence psychologique, et être père, c'est aussi être capable d'éduquer ses enfants, et il a failli à ses obligations.
Merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps ce matin à notre micro à d'RMC. Maître Malika Achmani, vous êtes donc l'avocate de Louis et Elia, les deux enfants du couple Jubilard. Il est 7h22, Arthur Chevalier, comme chaque matin, on va remonter le temps avec vous. Emmanuel Macron est en Syrie pour une visite d'État historique.
Oui, entre la France et la Syrie, c'est une relation tortueuse, avec des hauts et beaucoup de bas depuis plus d'un siècle et demi.
Ne bougez pas, on se retrouve dans 40 secondes sur RMC, 7h22.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. C'est l'heure de remonter le temps avec Arthur Chevalier. Arthur, Emmanuel Macron est arrivé hier soir en Syrie pour une visite d'État. C'est un événement diplomatique mondial.
Eh oui, déjà parce que c'est le premier président français à se rendre en Syrie depuis Nicolas Sarkozy. C'était il y a 17 ans. Mais c'est aussi marquant parce qu'Emmanuel Macron est le premier chef d'État européen à se rendre en Syrie depuis la prise de pouvoir du chef d'État actuel, l'ancien djihadiste Ahmed Al-Shara.
Symboliquement, la Syrie, c'est évidemment pas n'importe quel pays pour la France.
Hein. Non, puisque la Syrie, c'est une de ses zones d'influence dans le monde arabe et ça remonte au 19e siècle. À l'époque, la Syrie n'est pas indépendante, elle fait partie de l'Empire ottoman. Et en 1860, dans la ville de Damas, donc l'actuelle capitale de la Syrie, il y a un massacre de chrétiens, des chrétiens d'Orient. Qu'à cela ne tienne, l'empereur français de l'époque, c'était Napoléon III, il réagit en envoyant des milliers de soldats français pour secourir les chrétiens en Syrie. C'était une première étape dans la relation entre nos deux pays.
La Syrie va ensuite devenir quasiment française.
Oui, en 1920, la Syrie devient ce qu'on appelle un mandat français. Alors un mandat, qu'est-ce que c'est ? C'était un statut international qui voulait dire, en gros, qu'un territoire était administré par un autre. C'est une sorte de tutelle, si vous préférez. La Syrie était donc sous tutelle française. Et ça s'est fait par la force, puisque les Syriens voulaient être indépendants. Mais nous, on a réglé ça en envoyant l'armée.
Comment va réagir à ce moment-là la population syrienne ?
Forcément très mal, hein. Même si c'était pas une colonie, qu'il y avait très peu de Français sur place et que la langue officielle n'était pas le français, l'écrasante majorité des Syriens étaient pour l'indépendance. Même si c'est vrai qu'en Syrie, il y a toujours eu un intérêt pour la France, son histoire et sa culture.
Les Syriens vont finir par réclamer donc une vraie indépendance.
Absolument, ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale. En 1946, la population syrienne se soulève contre la France, hein, mais Paris ne lâche toujours pas l'affaire. On envoie l'armée, on va même bombarder Damas en commettant des atrocités. Il faut que l'armée britannique intervienne contre nos soldats pour qu'on arrête le massacre. Une situation clairement intenable. La même année, donc en 1946, la Syrie obtient son indépendance.
Après ça, est-ce qu'on va rester proche de la Syrie ?
Oui, plutôt. Surtout un de nos présidents, Jacques Chirac, se rapproche d'Hafez al-Assad. Hafez al-Assad, c'est un dirigeant très autoritaire qui a dirigé la Syrie pendant 30 ans. En 2001, ce même Jacques Chirac suscite même un scandale en remettant la Légion d'honneur au fils d'Hafez al-Assad, un certain Bachar al-Assad. Ça revenait évidemment à rendre hommage à une dynastie de dictateurs. C'est donc une histoire longue, compliquée et il faut bien le dire, pas très glorieuse pour nous, Apolline.
C'était Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Il est 7h25 dans un instant. La météo et le journal de 7h30. Et puis je vous attends au 32-16 pour venir réagir avec nous. Marine Le Pen sera-t-elle la candidate du RN pour la prochaine présidentielle. La réponse, ce sera à la mi-journée. La Cour d'appel de Paris qui doit rendre sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires européens. La présidente du groupe RN à l'Assemblée verra-t-elle sa peine confirmée? Dans ce cas, elle passera la main à Jordan Bardella. On fera le point à 7h40 avec le constitutionnaliste Benjamin Morel. Mais je vous attends dès à présent au 32-16. Qu'est-ce que ça change pour vous, d'abord, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Est-ce que vous considérez que c'est à la justice, en effet, dans le calendrier électoral, de prendre sa décision, de rendre sa décision aujourd'hui? J'attends vos réactions au 32-16. Et puis à 7h50, notre voix de gauche, Cécile Duflot, elle reviendra sur le racisme dont est victime Kylian Mbappé, tollé après les propos de cette sénatrice paraguayenne. Pour l'ancienne ministre, le capitaine de l'équipe de France a évidemment raison de répondre. Et puis je vous attends, vous aussi. Le 32-16 vous est ouvert. Venez donc réagir. Il est 7h26 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Journée décisive contre les flammes des Pyrénées-Orientales. Le vent se calme et les pompiers veulent en profiter pour matraquer l'incendie. Il a déjà ravagé 4900 hectares et les exploitations d'agriculteurs désemparés. Attention aux explosions. C'est l'alerte des syndicats du gestionnaire électrique RTE ce matin. Inquiet pour les grands transformateurs soumis, comme nous, à une troisième canicule en deux mois. Obrigado, Cristiano Ronaldo, la légende portugaise, dit adieu à la Coupe du Monde sans la gagner après son élimination hier soir face à l'Espagne.
Une fenêtre de tir s'ouvre pour les pompiers des Pyrénées-Orientales.
Moins égale plus. Moins de vent prévu aujourd'hui. Plus d'espoir d'éteindre l'incendie qui a déjà parcouru 4900 hectares. Journée cruciale. Une nouvelle loin de chez eux pour les quelques 12 000 habitants évacués comme à Y-sur-Tête. Rachel Sadodine, où vous avez rencontré un agriculteur venu constater les premiers lourds dégâts.
Au milieu d'un paysage dévasté, terre noircie, troncs d'arbres en cendres, seuls les arceaux des serres abritant les framboisiers d'Yves tiennent encore debout. Les bâches en plastique ont été dévorées par les flammes.
Quand ça a traversé la rivière, c'est rentré dans les serres.
Et à l'intérieur des serres, c'est quoi le bilan? Le choc et même les larmes de Jean. Le père d'Yves habite juste à côté des serres. Il a vu les flammes ravager l'exploitation familiale.
Toute une vie, 89 ans, le travail qu'on avait fait... Il est en train de disparaître. On avait des framboises magnifiques. On va aller voir les dégâts.
La tête entre les mains, Jean avance péniblement, épaulé par son fils jusqu'au framboisier, toujours debout, mais très abîmé par la chaleur des flammes. Yves attrape un bouton de fleur.
Ça devait être cueilli juillet, août, septembre. On récoltera pas. Un peu désabusé.
Vous avez les reins assez solides pour tenir ce coup dur, là?
Pas du tout. J'ai pas les moyens de remettre.
Car la petite entreprise familiale ne pourra pas compter sur un dédommagement. Les serres détruites n'étaient pas assurées. La faute, selon Yves, a un coût beaucoup trop élevé pour sa trésorerie.
L'envoyé spécial de RMC à Y-sur-Tête, Rachel Sadodine, un autre incendie en cours dans la Drôme, près de Die, a quant à lui ravagé un millier d'hectares. Notez que deux hommes sont toujours en garde à vue ce matin, l'un dans l'Hérault, l'autre dans le Rhône, tous deux suspectés d'être à l'origine de plusieurs départs de feu. Ce qui n'arrange pas le travail des pompiers, c'est cette troisième canicule en deux mois. Vous aurez du mal à y échapper aujourd'hui. 61 départements sont en vigilance orange, les trois quarts du pays, excepté le Nord et le Grand Est. C'est suffisant. Au camp pour nous, c'est potentiellement catastrophique pour le réseau électrique et donc dangereux pour les salariés du gestionnaire électrique RTE. Marion Gauthier, il lance l'alerte ce matin.
Oui, plus de 500 appareils ne seraient pas adaptés pour les représentants du personnel de maintenance du réseau haute tension. La chaleur affecte l'isolant électrique, explique un syndicaliste, ce qui peut créer une explosion, comme dans le Finistère, fin juin, par 40 degrés, celle de transformateur. Plus de 60 000 ménages ont été privés d'électricité. Des agents d'Astra était dans le poste à proximité, alertent les salariés de RTE qui ont exercé leur droit d'alerte. Ils réclament des explications, la mise en place d'un périmètre de sécurité et la mise hors tension ou le remplacement des appareils défaillants. La direction de RTE assure, elle, que l'infrastructure peut faire face à de fortes chaleurs, que des protections permettent de déconnecter les installations en cas d'anomalie.
Marion Gauthier pour RMC. Les ambitions présidentielles de Marine Le Pen peuvent s'éteindre dès aujourd'hui. Bracelet électronique ou non, inéligibilité ou non, la justice va trancher en appel à partir de 13h30 le sort de la chef du Rassemblement National accusée de détournement de fonds publics dans cette affaire, condamnée en première instance à 4 ans de prison, dont 2 sous bracelet électronique et également à 5 ans d'inéligibilité. La présidentielle est l'un de ses principaux thèmes, l'état des finances publiques. Comité d'alerte à Bercy. Ce matin, 11h, des ministres, des parlementaires et autres syndicats réunis au ministère de l'économie fin avril. Cela avait abouti à 6 milliards d'euros d'économies supplémentaires annoncées. Nouveau tour de vis prévu aujourd'hui, Cyprien Pézril, avec des gels de dépenses.
Oui, parce que le cap des 5% de déficit cette année paraît difficile à tenir pour certains dans l'exécutif. D'autant que ce matin, le gouvernement devrait revoir à la baisse sa prévision de croissance sur laquelle elle se basait. Une économie qui tourne au ralenti du fait notamment de la guerre au Moyen-Orient ces derniers mois. Ce sont donc des efforts supplémentaires à réaliser, ne cache pas Bercy, en plus des 6 milliards d'euros de dépenses déjà gelées. En tout, ça pourrait être autour de 10 milliards, estime auprès de RMC Eric Coquerel, le président LFI de la commission des finances à l'Assemblée. Parmi les pistes d'économie, le déremboursement de certains médicaments, la hausse des franchises médicales, mesure que le gouvernement pourrait acter rapidement dans l'été avec de simples décrets. Les arbitrages ne sont pas pris, tempère-t-on au ministère de l'économie, mais nous sommes assis sur un baril de poudre, prévenait encore récemment le ministre des Comptes publics.
Cyprien Pézril du service politique de RMC. Elle ose demander des excuses à Kylian Mbappé, la sénatrice paraguayenne, aux récents propos racistes contre l'attaquant français, a posté une lettre ouverte. Ce matin, elle reproche au joueur de l'avoir qualifié de méprisable et d'indigne dans sa réponse. Kylian Mbappé a reçu le soutien d'Emmanuel Macron et du patron de la FIFA. Et maintenant, place au terrain.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et plus aucun pays hôte de la Coupe du Monde n'est en lice dans la compétition. Les États-Unis ont été éliminés 4-1 cette nuit par la Belgique. C'est terminé aussi pour le Portugal. Défait 1-0 par l'Espagne. C'est comme ça, donc, sans jamais gagner ce trophée, que se conclut définitivement l'aventure Coupe du Monde pour la légende Cristiano Ronaldo. Jérôme Sillon.
Venu du monde entier au Dallas Stadium spécialement pour lui, les supporters de Cristiano Ronaldo se rappelleront avoir assisté au 27e et ultime match de leur idole en Coupe du Monde.
C'est triste, mais avoir l'opportunité d'assister au dernier match de Ronaldo, c'est un privilège.
C'est comme ça. On est venu de Californie pour voir jouer Ronaldo et ça valait le coup. Aucun regret.
À 41 ans, Ronaldo tire sa révérence après une 6e participation à la Coupe du Monde, sans jamais avoir soulevé le trophée suprême.
La conscience tranquille.
Je parle la conscience tranquille. J'ai tout donné. J'ai soulevé 3 trophées avec le Portugal. Avant Cristiano, le pays n'en avait gagné aucun. Je suis content. Le plus beau titre en sélection, c'est l'Euro 2016. Pour moi, ça a la même valeur qu'un mondial.
Pour ses fans, l'héritage du quintuple Ballon d'Or est inestimable.
C'est le meilleur des meilleurs, le GOAT.
On s'en rappellera comme l'un des plus grands de tous les temps, si ce n'est le plus grand. Le seul regret, c'est qu'il n'ait pas gagné la Coupe du Monde, sinon il serait le plus grand.
Avec 146 buts en 244 sélections, les records de Cristiano Ronaldo avec le Portugal ne sont pas prêts d'être battus.
Suite et fin des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, 18h, Argentine, Égypte et 22h, Suisse, Colombie. Ce sera évidemment à suivre sur RMC.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Chantilly aujourd'hui.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 7, Egyptian Glory. L'outsider, c'est le numéro 15, Mister Black, le 7 et le 15.
C'était le journal de Victor Pourchet. Il est 7h37. On part au 32-16. Et au 32-16, c'est Sophie qui nous appelle du Loiret. Bonjour Sophie.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Sophie? Vous êtes enseignante à Orléans et vous vouliez réagir à ces propos et à la manière dont Kylian Mbappé a répondu donc à cette sénatrice paraguayenne. Je vous écoute.
Bah déjà, au moment du match, je trouve que les Français ont très bien réagi, même après. Moi j'étais outrée, de toute façon, qui ne serait pas outrée des mots de cette femme. Et puis Kylian Mbappé a très bien répondu, de façon très intelligente. Et pour nous, les enseignants d'enseignement moral et civique, c'est un bon départ de travail sur les discriminations et notamment sur le racisme.
C'est formidable ce que vous nous dites, c'est vous pensez déjà à l'après. C'est-à-dire effectivement au fait que c'est une manière de lancer le débat avec avec vos élèves. Vous parlez beaucoup de la question du racisme avec vos élèves dans ces cours-là?
Ah mais c'est indispensable. L'enseignement moral et civique, les discriminations en collège, on le fait toujours, c'est dans le programme. Là, c'est un très, très bon départ de cours. Oui, effectivement, pour... Puis en plus, les gamins sont très, très fans de foot. Les collégiens, les garçons, les filles aussi, on a des filles qui font partie d'équipes de foot. Donc, ils écoutent, là. Ils vont avoir suivi.
Donc, ils vont avoir suivi. Vous pensez déjà à septembre, parce que vous êtes en vacances, là, Sophie, quand même.
Oui, oui, oui. Mais moi, bon, on s'intéresse aux informations. Autant, oui, voilà.
Voilà, pendant l'été aussi, et je vois que vous vous levez tôt malgré tout. Merci beaucoup, merci Sophie d'être passée par le 32-16. Effectivement, c'est aussi un modèle, cette réponse de Kylian Mbappé. Et on y reviendra, tiens, à 7h50, la voix de gauche, parce que c'est mardi, c'est Cécile Duflot. Et Cécile Duflot, elle soutiendra évidemment le fait que Kylian Mbappé ait pris le temps de répondre et de poser des mots. Rendez-vous donc à 7h50, il est 7h39 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Extrême chaleur et incendie dans le sud de la France. Et vos témoignages?
Ben oui, par exemple, celui de Sébastien qui nous écrit et je vous contacte depuis le Vaucluse. La préfecture vient de serrer la vis à cause des risques extrêmes. Interdiction totale de bosser avec le tracteur après 13h. Résultat, on fait nos heures. On ne laisse pas cramer les vignes. On attaque le chantier à la fraîche dès 5h du matin. Et c'est la course contre la montre. Avant que le couperet de 13h ne tombe, on s'adapte, on protège nos massifs. Mais bosser à ce rythme-là avec la poussière et la chaleur, je peux vous dire que la pause de 13h est méritée. Force à tous les collègues du monde agricole qui sont sur le pont aux aurores, nous écrit Sébastien ce matin. On a Jenna qui nous écrit qu'elle, depuis le Mont Ventoux, elle sent l'odeur des incendies à 50 km à vol d'oiseau. Elle ajoute une photo sur le WhatsApp RMC. Puis François qui nous écrit, lui, qu'il faut que l'effort soit fait par les entreprises pour libérer les pompiers. On en parle ce matin et vous continuez à réagir au 32-16.
Et puis cette question politique à la une, quel avenir pour Marine Le Pen? Écoutez Jordan Bardella hier.
Serein et prêt à assumer les conséquences de la décision de la Cour d'appel. Quelle que soit cette décision, la campagne démarrera dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et nous serons prêts quoi qu'il arrive.
Nous serons prêts quoi qu'il arrive, mais les juges doivent avoir en tête le poids politique de leurs décisions. Voilà ce que disait Jordan Bardella hier. Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences à Paris, Panthéon, Assas. On va essayer de comprendre avec vous les différents scénarios. Et qu'est-ce que ça change fondamentalement pour une potentielle campagne ou une potentielle candidature? Pour vous, au fond, la campagne pour 2027, elle commence aujourd'hui, c'est cette décision qui va en donner le coup d'envoi. Vous nous le dites dans un instant dans ce studio. Et vous aussi, vous n'hésitez pas à nous appeler, à réagir au 32-16, 7h41.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. L'heure de la décision pour Marine Le Pen. La triple candidate à l'élection présidentielle pourra-t-elle être candidate en 2027? Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Vous êtes constitutionnaliste, vous êtes maître de conférence à Paris, Panthéon, Assas. La Cour d'appel de Paris se réunit à partir de 13h pour rendre sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Condamné en première instance, le parquet a requis un an de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen. Quels sont les scénarios possibles?
Il y en a deux, en gros. Le premier, ce serait que Marine Le Pen soit condamnée à moins de 2 ans d'inéligibilité. Souvenez-vous, la peine, en première instance, a été prononcée le 31 mars 2025. Et donc, à partir de là, elle court à partir de cette date, 31 mars 2025, 31 mars 2027. On sait depuis quelques jours que le premier tour de l'élection présidentielle sera le 18 avril. Ça lui laisse la possibilité de concourir à l'élection présidentielle. On pourrait imaginer également qu'elle soit relaxée, mais soyons honnêtes, c'est pas tout à fait probable. Donc, c'est le scénario rêvé pour Marine Le Pen. Peine d'inéligibilité de moins de 2 ans. L'autre scénario, c'est que la peine d'inéligibilité soit de plus de 2 ans, ou bien qu'elle ait un bracelet électronique auquel elle a dit qu'elle n'irait pas, et à ce moment-là, c'est la carte Jordan Bardella.
C'est une situation absolument inédite dans l'histoire politique française, d'avoir à moins d'un an des élections, une décision qui va tout changer pour la démocratie du pays. Une décision judiciaire.
Alors c'est une décision judiciaire en effet, alors on peut se tourner vers les juges en considérant qu'ils ont une responsabilité importante. Cependant, il faut bien voir que les lois qui aujourd'hui prévoient l'inéligibilité, elles ont été votées sous la pression des électeurs, et même si elle n'a pas été appliquée en première instance, la loi Sapin 2, c'est une loi qui a pour but de contraindre le juge en rendant quasiment obligatoire le prononcé d'une peine d'inéligibilité. Donc au fond, bah là on se retrouve aujourd'hui avec une forme de serpent qui se mord la queue. Des électeurs seront probablement déçus, mais ces lois et ces contraintes au phénomène électoral ont été posées sur la pression des électeurs eux-mêmes.
Est-il possible, est-il imaginable que les juges réussissent à s'extraire totalement de la question politique ? C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a trois personnes qui ont entre les mains, en effet, une décision judiciaire qu'il faut qu'ils prennent, nonobstant la question politique, c'est-à-dire en faisant totalement abstraction de la question politique. Mais est-ce possible ?
Non, mais politique ne veut pas dire politicien. Quand vous prononcez une peine d'inéligibilité, il faut bien comprendre que vous réduisez, que vous contraignez les droits de deux types de personnes. D'abord, la personne qui est évidemment condamnée à la peine, mais la peine d'inéligibilité, elle a pour but d'abord de contraindre un choix électoral. Et donc, vous prenez en compte les droits également des tiers, et en l'occurrence des électeurs. Donc, vous faites un choix qui a une portée politique. Et dans la proportionnalité qui est celle pesée sur la peine, vous prenez en compte également l'impact électoral de votre décision. Donc évidemment, il y a une portée politique à cette peine, même si cette portée n'est pas nécessairement politicienne.
Vous dites évidemment que ça a des conséquences, non seulement pour la personne qui ne peut pas se présenter, mais aussi pour ceux qui auraient souhaité voter pour elle. Stéphanie est avec nous en direct, elle nous appelle au 3216 depuis Cannes, où vous êtes hôtesse de caisse. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue ce matin. Stéphanie, vous vouliez réagir, vous?
Oui, moi je pense que de toute façon, Marine Le Pen a toujours été massacrée, quoi, par tous les partis politiques. Et maintenant que les Français veulent absolument voter le RN parce qu'ils en ont marre de tout ce qui est présenté dans les élections, je pense qu'ils font tout pour qu'elle ne puisse pas se présenter.
Pour vous, la décision des juges, c'est une décision politique?
Ah largement. Et vous voyez, les sondages, tout le monde veut voter Marine Le Pen, mais à chaque fois, la dernière élection présidentielle, tout a été fait pour qu'elle ne soit pas élue. Et bon, je pense que les Français en ont marre de tout ce climat délétère qui existe en politique et qui veulent vraiment changer. Il faut arrêter tout ça.
Stéphanie, à aucun moment vous ne vous dites, parce qu'elle a été condamnée pour des faits, il a été considéré qu'elle était à la tête d'un système de détournement de fonds européens au profit du parti. Ça ne rentre pas en compte pour vous?
C'est-à-dire que prenez tous les politiques à un moment de leur vie, parce que ce ne sont pas des choses qui ont été faites il y a ces dernières années. Ça fait très longtemps.
Tout à fait, ça remonte à il y a très longtemps, effectivement.
Exactement. Alors, vous allez, dans chaque parti, remonter à 30 ans et plus de ce qui s'est passé.
C'est pas il y a 30 ans, Stéphanie. Mais ça veut dire que, en tout cas, vous considérez-vous que c'est une décision politique? Stéphanie, je peux vous demander, si Marine Le Pen n'est pas en capacité de se présenter, c'est Jordan Bardella vraisemblablement qui représentera le RN. Est-ce que ça change quelque chose pour vous?
Non. Même moi, j'attends. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas pour le RN, loin de là. Mais j'estime qu'il y a un acharnement et ça m'énerve.
Vous êtes contre cet acharnement. J'entends parfaitement, Stéphanie, et c'est important aussi que puisse être exprimé. Vous êtes hôtesse de caisse à Cannes. Merci de nous avoir appelé au 3216. Benjamin Morel, comment vous réagissez à ce qui est dit à l'instant, c'est-à-dire à une partie des Français qui disent que c'est une décision politique? En fait, c'est un acharnement.
C'est assez classique en réalité. Quand vous prenez toutes les grandes affaires politico-judiciaires, vous avez une solidification de l'électorat, de la personnalité derrière.
Mais est-ce que le risque justement politique, là pour le coup, ça peut être le sentiment effectivement que les juges les ont privés de cette élection?
L'électorat de droite a eu le même sentiment au moment de l'affaire Fillon, et on voit qu'aujourd'hui dans tous les électorats, il y a un doute qui s'insinue sur le rôle de la justice. Il faut également dire que ce soit au centre ou à gauche, à l'extrême droite ou à droite, il y a eu des affaires qui ont mené à des condamnations partout ces dernières années, ce qui fait relativiser le fait qu'il y aura un acharnement contre un camp ou un autre.
Une question, est-ce que le ministre de la Justice a un rôle quelconque dans cette histoire? Est-ce que Gérald Darmanin d'abord sait déjà ce qu'il va être décidé, annoncé cet après-midi? Quel est le rôle politique?
Alors normalement, être
officiellement
ministre de la Justice,
et officieusement, si je puis me permettre.
Officiellement, il ne sait rien et il ne donne que des consignes générales au parquet. Officieusement, évidemment qu'il peut y avoir des choses notamment qui remontent, et l'un des débats qu'on posera peut-être, c'est demain, si jamais Marine Le Pen peut se prononcer, enfin aujourd'hui plutôt, est-ce qu'il y a un pourvoi en cassation de la part du parquet? Et là, évidemment, derrière se posera la question de comment est-ce que se positionne le parquet. Et même si Gérald Darmanin ne peut pas donner des consignes directes, il y aura toujours un soupçon.
Il y aura toujours un soupçon. Merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir nous avoir aidé à imaginer les différents scénarios. Constitutionnaliste, maître de conférence à Paris Panthéon Assas. Et merci à Sophie pour son appel. Il est 7h50 et c'est l'heure de la voix de gauche. Cécile Duflot, bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile, Kylian Mbappé visé par des propos complètement racistes, hallucinants de la sénatrice du Paraguay et le capitaine des Bleus qui a réagi sur les réseaux. Il a été soutenu dans le monde entier, mais notamment par le président de la République Emmanuel Macron. Il a bien fait de répondre.
Il a bien fait. Il rompt avec une tradition qui consistait à essayer de prendre sur soi et il a eu très bien fait de répondre à cette sortie abominablement raciste.
De réagir, et vous aussi vous réagissez d'ailleurs, vous n'hésitez pas, le 32-16 vous êtes ouvert, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h51 et vous êtes bien sûr RMC, le bonus Mathieu, Paul McCartney qui anime des mariages.
Peut-être des kermesses aussi, ouais. Des communions, je sais pas, mais en tout cas il était invité au mariage de Taylor Swift le week-end dernier. Et sur scène il a joué I Want to Hold Your Hand des Beatles, tube de 63, vous l'avez reconnu. Et c'est la première fois que la chanson était jouée en live depuis 1964, depuis donc les Beatles il y a une soixantaine d'années. Taylor Swift qui a régalé un parterre de stars pour son mariage, on sait qu'ils s'entendent bien avec McCartney, ils s'apprécient, on les a aperçus à leurs différents concerts respectifs récemment. McCartney qui vient de revenir sur le devant de la scène avec un album inédit. Écoutez ce petit extrait. Il raconte ses débuts à Liverpool en chanson. Alors Paul McCartney, il montre aussi les débuts de la Beatlemania dans une expo photo. C'est cliché à lui, hein. 250 photos de ses prises entre 63 et 64, les Beatles, les premières foules, les débuts aux États-Unis. Ça, c'est au musée Granet d'Aix-en-Provence et c'est jusqu'au mois de janvier.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Il est 7h53 et c'est l'heure de la voix de gauche ce matin avec vous, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Kylian Mbappé serait, je cite, un Camerounais colonisé qui fait semblant d'être français et qui n'a pas appris à écrire. Ces mots, j'ai même du mal à les lire. La sortie raciste d'une sénatrice paraguayenne, Céleste Amarilla. Le capitaine des Bleus lui a répondu sur les réseaux sociaux dénonçant une femme méprisable. Cécile, est-ce que l'attaquant français a eu raison de répondre ?
Il a eu raison de lui répondre. Il a eu raison de dire qu'elle n'était pas digne de sa fonction. Parce qu'à quel moment une élue d'un quelconque parlement peut tenir de tels propos ? Ça paraît invraisemblable. Et elle aurait pu, elle, s'indigner des propos de l'ancien gardien du Paraguay aussi. Enfin, il y a eu vraiment des propos outrageusement racistes. Et c'est vrai que Kylian Mbappé fait quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que lui, il répond. Il répond fermement. Alors que souvent, on avait conseillé avant aux joueurs de laisser couler. Donc il a très bien fait parce que c'était insupportable.
Ça prend même un tournant politique et mondial. Emmanuel Macron a apporté son soutien à Kylian Mbappé, des politiques français aussi, et même le président de la FIFA qui a condamné le racisme. Pour vous, s'il n'avait rien dit, il n'aurait pas eu autant de soutien. C'est parce qu'il s'est exprimé, c'est parce qu'il a condamné les propos de cette femme.
Oui, parce qu'avant, on a bien vu une sorte de pudeur un peu générale. Les gens osaient rien dire. Et il y a des précédents.
Pudeur ou un manque de courage, quoi.
Quand je dis pudeur, c'est pour dire poliment que c'est de la lâcheté, parce que c'est une longue histoire, hein, le racisme et le foot. Mais en 1998, la sélection 98, nos premiers champions du monde, ils avaient vécu des attaques racistes de personnalités politiques françaises à l'époque, dont Jean-Marie Le Pen, qui avait sorti une sortie absolument odieuse, et il avait été dit qu'il fallait pas répondre, qu'il fallait en gros répondre sur le terrain, c'était ça la doctrine. Et pourtant on se souvient de ce que ça avait donné après, de ce que ça avait raconté de la France. Et Christian Carambeu, qui avait fait l'objet d'ailleurs des attaques de Jean-Marie Le Pen à l'époque, avait dit: nous avons représenté la France dans toute sa diversité culturelle, ethnique et géographique, nous étions le reflet de la société française, c'était une source de fierté de savoir que cette diversité avait donné quelque chose à la France. Et il a parfaitement raison, parce que c'est ça que raconte cette équipe. C'est une équipe de France qui nous rend fiers de ce qu'est la France aujourd'hui.
Et effectivement, il y avait eu les mots de Jean-Marie Le Pen, il y a eu ceux d'Éric Zemmour parfois sur la question de la représentativité, soi-disant, de notre équipe. C'est pas la première fois que l'attaquant star des Bleus est visé par des insultes racistes.
Non, c'est pas la première fois, et c'est aussi quelqu'un qui a eu des paroles politiques à l'inverse, qui a été courageux et utilement courageux. Et ça dit quelque chose de la France d'aujourd'hui, je crois vraiment profondément, parce que il y a plus que quelques discours racistes qui continuent à subsister. résister. Mais les joueurs, eux, n'ont plus peur de répondre, comme cette jeune génération, parce que si on regarde d'où viennent les joueurs, si on regarde une carte de France, d'où viennent les joueurs, ils viennent de toute la France. Sauf de la Bretagne et sauf du Sud-Ouest. Alors, le Sud-Ouest, c'est un peu le rugby, mais il y a quand même Didier Deschamps qui est né à Bayonne et son adjoint qui est né dans les Côtes d'Armor. Et surtout, il y a un élément qui n'a pas beaucoup été raconté, c'est que dans la Coupe du Monde, il y a 99 joueurs, dont l'équipe de France bien sûr, mais ailleurs, qui sont nés en France. Des joueurs qui sont binationaux ou qui ont été naturalisés. Donc il y a 99 personnes nées en France qui jouent la Coupe du Monde en ce moment.
Et Cécile Duflot, pour vous, c'est effectivement important de le dire désormais, on ne se tait plus.
On ne se tait plus et surtout, on se dit ce qu'est la France. La France, c'est sa diversité et c'est aussi des milliers et des milliers de clubs de football amateurs. C'est ça qui fait la France. C'est les 12 000 clubs de football amateurs, c'est les 2 400 000 licenciés et les 400 000 bénévoles. Les 400 000 bénévoles qui permettent à ces clubs de vivre, à ces joueurs d'être repérés et de faire notre fierté. Donc dans cette équipe, c'est toute la France, toute son histoire. Aussi tous ces bénévoles et surtout le courage de parler, de ne plus se taire face au racisme. Donc merci à Kylian Mbappé, merci à cette équipe de nous rendre fiers et à bientôt, puisque on peut imaginer que la troisième étoile ce sera aussi celle de tous ceux qui aiment le foot dans ce pays.
La suite, effectivement. Merci Cécile Duflot, la voix de gauche sur RMC. Demain ce sera la voix de droite, Louis Sarkozy. Dans un instant, le journal de 8h, à la une cette décision attendue cet après-midi de la cour d'appel de Paris pour Marine Le Pen. Elle saura si elle peut, oui ou non, se présenter à l'élection présidentielle. La météo, Géraldine Demory nous le dira, il fait toujours plus chaud et notamment dans le sud. Et puis après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Face à la nouvelle vague de chaleur, les Français adaptent leur consommation. Hein.
Oui, on a ausculté les tickets de caisse des Français et je vous dis tout ce que ça raconte de nos changements de comportement.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h57, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h59 et vous êtes bien sur RMC. Il fait très 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 chaud, Géraldine.
Oui, 61 départements sont en vigilance orange canicule. C'est les deux tiers du pays jusqu'au Finistère, jusqu'au bassin parisien, avec des températures qui vont être encore très élevées cet après-midi. On devrait atteindre les 40 degrés pour Bordeaux, pour Poitiers, les 39 à Toulouse, 38 pour Nantes, 37 à Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand ou encore Perpignan, 36 à La Rochelle, 35 à Paris, il fera 34 à Marseille, Montpellier, Nancy, 32 à Brest, 30 à Lille, avec beaucoup moins de vent près de la Méditerranée, c'est une bonne nouvelle, mais le vent Mistral Tramontane devrait reprendre à nouveau demain, avec des températures qui vont assez peu évoluer dans les prochains jours, mais une chaleur qui va durer au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine.
C'était la météo sur RMC. Bonne journée.
Il est 8h, merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'élection présidentielle se joue déjà aujourd'hui avec la décision de justice attendue cet après-midi dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN. Concrètement, Marine Le Pen va savoir aujourd'hui si elle peut ou pas se présenter à cette élection. Pendant ce temps, la France suffoque, 61 départements en alerte orange canicule. Ce matin, ça recommence. Et la France brûle aussi, même dans des départements pas du tout habitués comme l'Essonne qui est en alerte maximale incendie.
Il y aura un avant et un après 7 juillet au Rassemblement National.
Oui, parce que c'est aujourd'hui que la Cour d'appel de Paris va donc rendre sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN. Autrement dit, c'est aujourd'hui que Marine Le Pen va savoir si, oui ou non, elle peut se présenter à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Sébastien Krebs, vous êtes le chef du service politique RMC en direct ce matin. La décision va tomber dans l'après-midi et ensuite vous nous dites que ça va aller très vite au Rassemblement National.
Oui, c'est Marine Le Pen elle-même qui a donné la consigne à ses troupes. Une fois la décision connue, la campagne doit commencer, pas le temps en somme d'épiloguer sur les juges. Voilà pourquoi elle veut annoncer dès ce soir sa décision aux 20h. Et son entourage le répète, elle ne prendra pas le moindre risque. Même en cas de flou, elle renoncera et passera immédiatement le flambeau à Jordan Bardella. Au RN, les deux scénarios sont écrits pour ce soir et pour les prochains jours. Certaines choses ont même été calées par Jordan Bardella et Marine Le Pen en tête à tête pour éviter les fuites. Une fois la décision des juges connue, ils se verront cet après-midi au siège du parti avant le 20h. Si elle est empêchée, lui restera silencieux au moins 24 heures, puis lancera sa campagne d'ici à la fin de la semaine. En revanche, si elle peut finalement se présenter, bien là, c'est le scénario rêvé pour elle. Un de ses proches jubile déjà. Ce serait le phénix qui renaît de ses cendres. Ça la boosterait. En attendant, c'est vertigineux pour elle, comme pour lui, témoigne un cadre. Et au-delà du RN, en fait, c'est toute la classe politique qui retient son souffle aujourd'hui. Pour tous, ce 7 juillet est coché depuis des mois comme le réel premier jour de la campagne présidentielle.
Et alors, il y a un monde dans lequel Marine Le Pen peut se présenter à cette élection, même en cas de condamnation, mais le chemin semble assez étroit.
Oui, parce qu'une relaxe paraît peu probable. Marine Le Pen, en appel, n'a pas contesté les faits. Elle a plaidé plutôt la bonne foi en espérant une atténuation de sa condamnation. Alors, il faudra surveiller deux points essentiels cet après-midi. La peine d'inéligibilité, 5 ans requis. Il faudrait que les juges la ramènent à 2 ans maximum. Elle aurait ainsi fini de la purger avant le premier tour. Et puis, il faut éviter la prison ferme. À minima, la transformer en sursis pour échapper au bracelet électronique qui l'empêcherait de faire campagne librement. Et il faut encore ajouter une condition, que le parquet ne décide pas de se pourvoir en cassation pour contester la décision, ce qui repousserait encore l'échéance de plusieurs mois.
Et la réaction également du candidat des Républicains, Bruno Retailleau. Il sera mon invité à 8h30 dans le face-à-face.
Alors en attendant, le gouvernement se réunit aujourd'hui pour parler des finances publiques. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, convoque le comité d'alerte récemment créé. La première fois qu'il s'était réuni, c'était dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Et le gouvernement avait annoncé 6 milliards d'euros d'économies. Cette fois, il est question de revoir la prévision de croissance à la baisse. C'est dans ce contexte économique aussi que les salariés de RTE, le gestionnaire du réseau d'électricité en France, alerte sur l'état de nos infrastructures, pas du tout adaptées, disent-ils, aux fortes chaleurs. Ils alertent précisément sur un danger grave et imminent. Alors ce matin, il y a du mieux sur le front des incendies. Le vent s'est calmé près de la Méditerranée, mais le feu n'est toujours pas fixé dans les Pyrénées-Orientales, où les flammes ont parcouru près de 5000 hectares de végétation depuis le week-end dernier, à l'ouest de Perpignan. On parle désormais de 12 000 habitants évacués dans le dernier bilan du préfet. Il y a un autre feu qui progresse encore là ce matin dans les montagnes de la Drôme à Die. Il y a 2 villages qui ont été évacués dans la soirée. Et alors, il y a ce matin 3 départements au niveau d'alerte le plus élevé pour les départs de feu. Le Vaucluse, les Deux-Sèvres, c'est déjà arrivé. Et alors, plus surprenant, mais l'Essonne. Écoutez pourquoi ce département de l'Essonne avec le météorologue Patrick Marlière.
On attend sur ce département les températures peut-être les plus élevées de l'Île-de-France, 36 à 38 degrés. L'humidité qui est très basse. Là, elle était même inférieure à 20%. Et puis, le troisième point, ce sont les vents qui vont souffler à plus de 40 km à l'heure. Comme l'Essonne a plus de 23% de son territoire en forêt, mais il y a aussi tous les travaux des champs. Le monde agricole est en pleine effervescence pour la récolte des blés, par exemple. Les conditions sont réunies pour que les moindres étincelles qui peuvent être produites par l'activité humaine pourraient déclencher elles-mêmes ces feux de forêt.
Et leur propagation est fortement influencée par la chaleur, confirme Météo France, qui a donc placé 61 départements en alerte orange. La canicule tisse sa toile, de plus en plus de régions sont concernées. Le répit aura été donc de courte durée, Géraldine Demory. Le scénario du pire est encore une fois en train de se confirmer.
Ouais, une canicule longue et intense qui se rapprochait de celle du mois de juin. C'est le scénario qui est maintenant privilégié. Alors, il reste encore beaucoup d'incertitudes, mais il est clair que le dôme de chaleur est bien installé sur le pays. Après plusieurs semaines déjà très chaudes, les sols secs, l'absence de vraies pauses favorise des températures encore plus élevées l'après-midi. Donc, dans les prochains jours, les températures devraient assez peu évoluer avec notamment les 40 degrés fréquemment atteints entre la Nouvelle-Aquitaine et le Golfe du Lion. Ensuite, certains scénarios voient une intensification de la chaleur pour le week-end avec des pointes à plus de 43 degrés envisagées sur le sud-ouest. Ça va dépendre de la position exacte d'une goutte froide près de l'Espagne. Mais ce qui est sûr, c'est que la chaleur va durer au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine.
Et c'est donc sous ces fortes chaleurs que seront annoncés, dévoilés les résultats du baccalauréat à partir de la fin de matinée pour la moitié des académies. C'est aujourd'hui que ces résultats vont tomber. Alors ceux qui en souffrent de la chaleur, plus précisément, ce sont les coureurs du Tour de France. Ils vont se lancer là tout à l'heure dans la 4e étape de cette grande boucle longue de 182 km entre Carcassonne et Foix. Une des régions où il fait le plus chaud en ce moment. Et en gros, Kevin Morand, ils vont pédaler toute la journée sous une 40 degrés.
Oui, le peloton a quitté l'Espagne hier et le directeur sportif de Decathlon CMA-CGM, Julien Jurdi, n'en revenait pas de la température.
Alors, je sais pas si mon compteur dans la voiture marchait, mais j'ai vu 46.
Et 38 degrés sont encore annoncés à Foix, ville arrivée cet après-midi. Mais les coureurs s'y sont préparés juste avant le tour, comme Baptiste Westhofer et Warren Barguil.
Là, pendant il y avait la dernière canicule, j'allais rouler aux heures où il faisait le plus chaud. Le grand public, faut pas faire ça, mais le corps humain, en fait, il a des capacités d'adaptation extraordinaires. Et en seulement 3-4 jours, t'es adapté à ça.
Limite, les vagues de chaleur, elles sont plus dures à la maison.
maison parce qu'on n'a pas une voiture derrière nous pour nous mettre de la glace et avoir des bidons frais.
Les équipes mettent donc tout en œuvre pour rafraîchir les coureurs avant, pendant et après l'étape.
En quantité de glace, ça peut monter jusqu'à 80 voire 100 kilos sur une journée.
Le médecin de la formation Total Energy, Paul Vérague.
Avant le départ de l'étape, l'objectif c'est de ne pas faire monter la température corporelle dans le bus avec la climatisation, des gilets de froid. Et après, pendant l'étape, beaucoup de bidons d'eau qui sont dans les voitures, des bas de glace. En post-étape, redescendre avec les bains froids.
Un protocole forte chaleur permettant des adaptations de la course peut être déclenché en fonction de la température, du taux d'humidité et du vent.
Et le maillot jaune est déjà sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar qui ne laisse aucune miette aux autres et qui a remporté la troisième étape hier aux Angles.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors la qualification, je vous la signale, dans la soirée de l'Espagne 1-0, c'était contre le Portugal. La qualification aussi cette nuit de la Belgique 4-1 contre les États-Unis. L'intervention de Donald Trump pour faire annuler un carton rouge n'a rien changé. Au contraire, ça a galvanisé les Belges. C'est ce que nous dit le milieu de terrain des Diables Rouges, Nicolas Raskin.
Ouais, bien sûr, ça a motivé le groupe. Il y a toujours une justice d'une façon ou d'une autre dans la vie. Et je pense que quand tu essayes de faire quelque chose, que tu peux appeler ça comme tu veux, mais c'était quelque chose d'un peu particulier, je pense que ça te revient toujours un moment. Ouais, supplément d'âme de part au début du match par rapport à ça. Ça a donné le match que ça a donné aujourd'hui et maintenant on est très heureux et on va regarder vers le quart de finale.
Alors les trois pays hôtes sont désormais éliminés. Il y aura les deux derniers huitièmes de finale ce soir. Les Bleus préparent leur quart de jeudi, vous le savez, contre le Maroc dans un contexte de polémique. On vient de parler des propos racistes d'une sénatrice au Paraguay visant Kylian Mbappé. Le joueur les a condamnés, tout comme dans la foulée la FFF, la ministre des Sports. Emmanuel Macron, le président de la FIFA, la sénatrice a eu le culot de répondre là dans la nuit en demandant des excuses à Mbappé. Elle explique, et je vous jure que tout ça est vrai, qu'elle aime la France parce qu'elle a passé le dernier Noël à Courchevel et le nouvel an à Saint-Tropez.
Inouï. Inouï. Enfin, je n'ai plus de mots, c'est absolument inouï. Vous n'hésitez pas d'ailleurs, évidemment, vous réagissez au 32-16. C'était le journal de Quentin Vinet. 8h09, je voudrais vous rappeler qu'il n'y a plus que 4 jours pour faire gagner votre entreprise, pour vous inscrire pour la 17e édition des trophées PME RMC BFM 2026. Vous êtes entrepreneur, vous dirigez une petite ou moyenne entreprise. C'est le moment de participer et de gagner peut-être jusqu'à 100 000 euros d'espace publicitaire sur le groupe RMC. Il y a des entreprises extraordinaires qui ont vu qui ont pris leur élan grâce à ce concours des trophées PME RMC, Too Good To Go, Blablacar, C'est qui le patron. Voilà des entreprises qui ont vraiment bénéficié de la lumière aussi que RMC leur a apporté, qui ont gagné ce trophée PME. Comme eux, vous vous lancez dans la course et vous inscrivez votre PME dès maintenant sur trophée PME RMC BFM.fr, trophée PME RMC BFM.fr, et on sera très très fiers de vous soutenir. C'est les tout derniers jours pour vous inscrire. Et justement, on parle économie sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel, comment la canicule impacte nos comportements de consommateurs?
Alors on savait depuis la canicule de 2003 que la chaleur poussait les consommateurs à réduire leurs achats, puisqu'en août 2003, ils avaient baissé de 3% par rapport au mois de juillet. Mais c'était à peu près tout. À l'époque, on n'avait pas les outils dont on dispose aujourd'hui pour vraiment détailler le comportement de chacun. C'est ce que fait la société 10% en analysant des centaines de milliers de tickets de caisse. Donc, qu'est-ce qu'il y a dessus? À quelle heure vous passez? Etc. Et donc, les principales conclusions. Pour fuir la chaleur, les Français décalent leur course entre 7h et 11h et fuit le créneau 14h-17h. Fréquentation en hausse de plus 4% avant 11h, en baisse de 4% après 14h. Ils regroupent leur course pour sortir moins souvent. Ça, on l'avait déjà identifié il y a quelques semaines. Le nombre de tickets par foyer a baissé de 6% au cours des dernières semaines, alors que le panier médian, lui, progresse de 5%. Donc on y va moins souvent, mais on achète plus. Le caddie se rafraîchit, plus de glace, d'eau plate, mais attention, pas plus d'alcool. Les ventes de bière, par exemple, n'ont pas progressé à cause de la canicule. Et puis surtout, les Français éteignent leurs fourneaux. La part des plats froids a basculé de 38% à 56% des ventes. Tout ce qui suppose de cuisiner ou de boire chaud décroche. Donc les plats chauds, les sauces, le chocolat, les pâtes, les ingrédients pour pâtisserie, café, beurre, etc. Et conséquence intéressante aussi, c'est que la canicule efface la frontière de consommation entre le nord et le sud. Il y a une consommation qui était plutôt typée sud, généralement, plus de produits frais, de fruits, de légumes, etc. Et une consommation plutôt nord. Et ben là, toute la France se met à consommer à peu près la même chose.
Et surtout comme le sud. Le coup de chaud, il est aussi sur les prix. Hein.
Oui, parce que ce panier d'été avec plus de fruits et légumes, de boissons, dont les prix ont tendance à être sous pression pendant la saison, eh bien, il coûte environ 2% plus cher que le panier hors période de canicule. Comptez sur les marques pour adapter leur gamme, leur prix et leur livraison, surtout à ces périodes qui vont se renouveler de plus en plus souvent, parce qu'on a aussi constaté qu'il y avait beaucoup de ruptures de stock sur pas mal de produits. Donc,
ils n'avaient pas forcément anticipé, ils le feront davantage la prochaine fois.
Les grandes marques, elles ont regardé tout ça de près et qu'elles vont en tirer le meilleur.
Que se passe-t-il sur les prix à l'énergie? Ça continue à stagner ou pas?
Oui, alors le mot du jour, ce serait même légère hausse.
Oui.
On a pris 1 centime sur le gazole et sur le sans-plomb 95. On était à 1,89 ces derniers jours. On est aujourd'hui à 1,90. Le pétrole, quelques cents aussi. On remonte, on est à presque 72 $ le baril, et puis la remontée du gaz, elle aussi, elle se confirme. On a pris 5 € le mégawattheure en quelques jours.
Merci beaucoup Emmanuel, il est 8h13.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, il y aura le meilleur d'Arnaud Demanche. À 8h30, notez dès à présent que l'invité du face-à-face, ce sera le président des Républicains, candidat à l'élection présidentielle, Bruno Retailleau. Marine Le Pen ou Jordan Bardella, est-ce que ça change quelque chose pour lui? Puis c'est la première fois qu'il s'exprimera aussi depuis les appels du pied de Laurent Wauquiez pour qu'il renonce et qu'il soutienne Édouard Philippe. Donc ne manquez pas Bruno Retailleau sur RMC et BFM TV. Juste après 8h50, il y aura le choix de la rédaction. Mathieu.
Oui, notre reporter Julie Brault a pu assister en exclusivité à une opération importante de lutte contre le narcotrafic à Grenoble hier. Coup de filet qui a permis d'interpeller une dizaine de trafiquants. C'est le choix de la rédaction. Et puis les dernières infos de la Coupe du Monde sur le terrain et en dehors. C'est avec Virginie.
Restez bien avec nous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 et c'est l'heure du meilleur d'Arnaud de manche. Arnaud qui nous donnait ses bons plans pour gagner de l'argent. Écoutez.
Amis de l'argent, bonjour.
Bonjour.
Vous tous.
Ah oui, parce que si on est derrière.
Surtout, sachez que si vous avez peut-être tous de la thune qui vous attend sur le site internet Cyclades de la Caisse des dépôts, qui permet de savoir si vous avez des sous qui vous attendent sur des comptes bancaires que vous avez oubliés.
Alors, ce serait génial.
On met son nom dans le site.
Non, mais c'est alors
11 euros. Oh.
Moi, j'ai eu 30 balles. En 2025, 164 millions d'euros ont été restitués. Donc, on tape son nom sur le site. C'est comme le loto.
Et vous avez, monsieur Béliard, 11 euros sur le livret A qu'a ouvert votre grand-mère à votre naissance. Félicitations.
Hey, 5 euros sur un livret A il y a 20 ans. Peut-être que vous avez un trésor de 5,50 € qui dort sur un compte. Emmanuel Le Chypre, il va se régaler, Manu. Il en a tellement des comptes, il a dû en oublier.
Oh, je l'avais oublié, ce compte à la Banque Populaire. Oh, un autre chez HSBC. Oh, un autre au Crédit Agricole. Oh, une assurance vie à la Banque Postale.
En 2026, Manu, il va récupérer les 164 millions à lui tout seul.
Ouais.
Enfin, avec Edwige Chevrillon,
sa
copine de BFM Business. Ouais. Il va lui dire «
Momoun, je vais pouvoir agrandir la piscine et commander un millefeuille chez Cédric Grolet. »
Oh, choubidou, c'est formidable. Je suis nu dans le jacuzzi. Prends les frites de piscine et les canards en plastique.
J'arrive.
Oh, requin de la finance, croque-moi toute crue, je suis un sushi.
Edwige, on t'embrasse.
On t'embrasse, Edwige.
Donald Trump se prépare à une attaque nucléaire sur le sol américain. On lui a posé la question, un avion prévu
Ouais, en fait, alors, bien, je vais le faire. Je sens qu'on a mal dormi. Le débat de mercredi soir a laissé péter la question. Je vais le faire, moi.
Je vais répéter la question. En fait. Si on veut payer le voyage, je veux bien y aller.
Donald Trump se prépare-t-il à une attaque nucléaire sur le sol américain? Parce qu'il y a un avion qui est prévu dans ce cas.
Oui, mais c'était trop compliqué aussi comme relance. Compliqué. Pardon, Arnaud Demanche.
C'est un avion qui est surnommé l'avion de l'apocalypse et il a été vu en train de faire des manœuvres. L'avion de l'apocalypse. Alors l'avion de l'apocalypse, c'est pas un vol Ryanair qui fait Beauvais-Gerba où vous êtes coincé entre Gilles Vernez et Anita Turner. Hein,
l'avion de l'apocalypse. C'est pas mal aussi, ça dit.
C'est pas loin. Non, c'est bien aussi, mais là c'est un avion blindé qui est surnommé aussi l'avion du jugement dernier. Ça fait envie. Il doit servir de poste de commandement pour le président américain en cas d'attaque nucléaire. Alors admettons qu'il y ait une attaque nucléaire et que la planète soit détruite. Où est-ce qu'il va atterrir de toute façon? Ça le maintient en l'air le temps d'un plein, quoi. En tout cas, c'est pas rassurant. Et vous savez qu'en France, nous, on a le Ouigo de la fin du monde. Qui sert aussi de base à Emmanuel Macron en temps de crise. Je vais demander à l'armée de l'air de... Oh non, je capte même pas le Wi-Fi. Alors que c'est la guerre mondiale. Bon, je vais aller au wagon-restaurant pour le briefing. Oh non, putain, c'est vrai, c'est un Ouigo. À seulement 350 euros le billet, il n'y a pas de wagon-bar. Oh, bah, c'est bête, alors.
C'est vraiment trop bête. J'avais beau l'avoir déjà entendu. Je ris et je re-ris. C'était Arnaud Demanche, il est 8h19.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Et c'est l'heure, vous l'entendez, c'est l'heure de vous faire gagner vos vacances. Félicitations Cédric.
Oui, allô, bonjour.
Oui, bah ça y est, félicitations, c'est gagné, c'est dans la poche.
Mais c'est super ça.
Oui, c'est super ça Cédric, bravo Cédric.
Eh ben merci à vous, merci à l'équipe, merci à tout le monde.
C'est trop bien, vous avez donc gagné vos vacances, votre séjour bel en bras. Vous faites quoi dans la vie Cédric?
Je travaille dans la distribution, dans une grande surface alimentaire.
Dans une grande surface alimentaire, vous ne souhaitez pas dire si c'est un Leclerc, Intermarché, Auchan.
Je peux tout à fait le dire.
Vous
c'est
y allez.
C'est Intermarché. Si bah, vous écoutez, m'autorisez, je peux le dire.
Vos collègues vont pouvoir vous féliciter ce matin. Cédric, vous êtes en Vendée, c'est ça?
Je suis en Vendée, c'est ça.
Et ben, vous allez donc pouvoir partir en vacances où vous voudrez en France. Il y a 45 destinations parmi lesquelles vous allez pouvoir choisir. C'est mon petit moment speakerine, c'est mon petit moment un petit peu hôtesse. Vous avez donc remporté, Cédric, un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Bellambra s'occupe de tout, des enfants, des activités, des repas. Vous irez avec ou sans enfants d'ailleurs, vous?
Ben, ils sont grands, ils ont une vingtaine d'années, donc après c'est l'âge où ils veulent ou pas nous accompagner.
Voilà, on verra, mais peut-être que pour une fois justement ils seront bien contents de vous accompagner. En tout cas, on est très 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 heureux de vous avoir gâté. Félicitations à vous Cédric et belle journée. Il est 8h21 sur RMC. Dans un instant, c'est le face-à-face. Mon invité, c'est Bruno Retailleau, candidat à l'élection présidentielle, président du parti Les Républicains. Bruno Retailleau qui répond donc à toutes mes questions. Et notamment, évidemment, il y en a une qui s'impose ce matin. Si c'est Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ça change quoi pour lui? Donc à quelques heures de la décision qui sera rendue par le tribunal d'appel de Paris. Il est 8h21, à tout de suite sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Retailleau.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, candidat LR. Vous êtes par ailleurs le président du parti Les Républicains. De très nombreuses questions à vous poser ce matin. Mais évidemment, la première, c'est ce qui concernera Marine Le Pen aujourd'hui. La Cour d'appel de Paris va rendre sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN. Marine Le Pen ou Jordan Bardella, pour vous, ça change quoi?
Ça ne change rien, c'est la justice qui va se prononcer. Elle a raison d'ailleurs de se prononcer tôt, plutôt que d'attendre quelques semaines, quelques mois, juste avant cette élection fatale, ultime, l'élection présidentielle. Pour moi, ça ne change rien. Ça ne change rien parce que le RN ne sera pas en mesure de redresser la France. Je n'y crois pas du tout parce que ils sont les supporters de l'assistanat. Je pense que la France est en train de mourir d'un système social qui a dérivé. Je suis pour un système social qui protège notamment les plus fragiles, mais pas ceux qui vivent au crochet de la société. Et regardez, ils n'ont pas voté l'assurance, la réforme de l'assurance chômage, l'assurance de la retraite. Et c'est un parti girouette. Ils ont changé d'avis
sur
tout.
On va revenir sur le fond, mais sur le calendrier, vous le disiez, en effet, la justice a accéléré son calendrier de manière à pouvoir rendre sa décision à temps pour que Marine Le Pen ou Jordan Bardella puissent faire campagne. Le fait que ce soit une décision judiciaire qui aura des conséquences politiques. Les mots de Jordan Bardella qui disait hier soir, la Cour d'appel doit avoir en tête qu'elle va dans sa décision avoir le poids des conséquences politiques dans ce que sera prononcé. Et Marine Le Pen qui dit, cette décision peut contrecarrer le fonctionnement démocratique de notre pays. Est-ce que vous considérez que la justice est politique en rendant cette décision aujourd'hui?
Non, ou... la justice ne doit avoir qu'une chose en tête. Marine Le Pen est-elle, oui ou non, coupable? Ah, c'est ce qu'on demande à la justice. Souvent, je suis monté au créneau pour dénoncer des syndicats, notamment de magistrats, qui étaient très politisés. Et je le cite, le syndicat de la magistrature. Vous vous souvenez, le mur des cons. La justice doit certes être indépendante, mais elle doit d'abord être impartiale. Et c'est ce qui explique sans doute cette partialité, parfois, que perçoivent les Français, ce lien distendu, ce lien de confiance qui a été brisé entre les citoyens et la justice.
La décision qui sera rendue aujourd'hui, pour vous, peut-elle être non politique?
Elle aura des conséquences politiques, mais elle peut ne pas être dans ses fondements, dans ses intentions politiques. C'est ce que je souhaite et c'est ce que j'espère. Et c'est désormais...
Vous ferez confiance, quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision? Vous estimez qu'il faut la respecter et pas se poser de questions?
Ah bah écoutez, non, moi je suis de ceux qui considèrent que, je l'avais fait d'ailleurs en première instance, que lorsque Marine Le Pen avait été condamnée à une exécution provisoire, qui contredisait d'ailleurs la présomption d'innocence. Je trouvais ridicule que cette décision de première instance... Donc je me suis pas privé de dire ce que je pensais. Mais simplement, là, la Cour d'appel va devoir dire si oui ou non elle estime que Marine Le Pen est coupable de détournement de fonds publics.
Est-ce que vous entendez aussi ce que disent, j'avais ce matin une auditrice, hôtesse de caisse à Cannes, qui disait « Moi, j'ai l'impression que c'est de l'acharnement parce que je considère que quand Marine Le Pen représente, disait-elle, plus de 30% dans les sondages et qu'une partie des Français veulent qu'elle soit candidate, c'est pas au juge de prendre cette décision. »
Non, mais le juge prend une décision sur la culpabilité, sur des faits. Si jamais on sentait dans la décision qu'il y avait autre chose que des faits qui devaient rentrer en ligne de compte, alors il faudrait la dénoncer. Mais je veux dire que la justice, enfin les hommes et les femmes politiques, pardon, ils ne sont ni en dessous des lois, ni au-dessus des lois.
Bruno Retailleau, on reparlera de la justice parce que je voudrais vous interroger aussi après les drames de Liana, après les drames de Louis. Mais du point de vue de la politique, vous avez reçu récemment des marques au moins d'inimitié, en tout cas de détournement de celui qui pourtant était vraiment censé être votre bras droit pendant longtemps, Laurent Wauquiez. Par son histoire, par les responsabilités qui ont été les siennes, Édouard Philippe peut incarner l'ordre et le sérieux permettant de redresser la France. Et à vous, semble-t-il, même s'il ne vous nomme pas, il dit il faut savoir se retirer. Ça vous fait rire?
Non, ça me fait pas rire, mais ça m'a pas étonné plus que ça. Voilà, Laurent Wauquiez n'a jamais été mon bras droit. Vous savez, moi je me suis engagé sur un chemin difficile, l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est pas une promenade de santé, c'est pas guinguette et flonflon, pas du tout. Vous avez droit chaque matin à votre bol d'huile de foie de morue. Voilà. Et vous avez droit aux petites trahisons. Le problème de ce genre de déclaration, où il se contredit il y a quelques mois près d'ailleurs, puisque un an, il n'y avait pas de mots assez durs sur Édouard Philippe, et d'ailleurs il le trouvait que j'avais été trop macronisé quand j'étais ministre de l'Intérieur. Ce qui fait mal à la politique, c'est ces retournements de veste. C'est finalement dire une chose le matin et dire l'inverse le soir, parce que ça accrédite dans l'esprit des gens cette idée que dans la politique, tout est faux, tout est pourri.
Vous avez dit, Bruno Retailleau, je ne souhaite pas assez de mal à Édouard Philippe pour lui souhaiter le soutien de Laurent Wauquiez. C'est-à-dire que c'est un boulet, en fait, Laurent Wauquiez, quoi.
Ah ben, en tout cas, ça n'a jamais été un bras droit, ça n'a jamais été une aide pour moi, non, ni un soutien d'ailleurs.
Il est toujours membre des LR?
Oui, il est toujours membre des LR, mais.
Vous n'allez pas l'exclure
décision,
pour autant?
Écoutez, je remettrai pas un jeton dans la machine. Moi, je suis engagé pour mon pays. Je pense que la France est en train de, est au bord du gouffre, en tout cas. Et je veux garder toute mon énergie pour redresser la France, redresser mon pays.
Le mais reste, c'est aussi
pour
l'argument
moi,
de
c'est anecdotique.
Cette question, quand même, de la multiplicité des candidatures. C'est-à-dire de dire, au fond, aujourd'hui, sur à peu près le même électorat, il y a Édouard Philippe et il y a vous. Si on élargit un peu, il y a aussi Gabriel Attal. Cette question-là, à la fin, si vous êtes tous les trois sur la ligne de départ, en effet, il y a peu de chances que vous n'ayez pas Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur l'affiche du deuxième tour.
Mais je vais vous dire, j'étais à Brest, j'étais à Aix, j'ai fait un meeting tout près de Marseille vendredi soir. Je suis sans doute un des candidats qui voit le plus de monde parce que je laboure le terrain. Croyez-moi, il n'y a aucune envie des Français d'avoir un match de second tour entre M. Mélenchon et M. Bardella ou Mme Le Pen. aucune envie, parce qu'ils sentent très bien que c'était.
Ils sentent très bien.
Ils sentent très bien que ce serait le chaos. Et par ailleurs, il y a aucune envie de reconduire celles et ceux qui ont gouverné pendant longtemps et qui ont appuyé la politique d'Emmanuel Macron pendant 10 ans. Aucune envie. Ils n'ont pas envie.
Pour vous, Édouard Philippe, c'est le macronisme.
Mais en tout cas, il aura de la peine à se décontaminer, évidemment, et il sera sans cesse, à mon avis, rattaché à ce bilan-là.
Il y a cette phrase prononcée ce matin par Laurent Wauquiez: à l'automne, ceux qui ne sont pas les mieux placés doivent se retirer. Est-ce que ça, pour le coup, sur les règles du jeu, j'allais dire, vous êtes à peu près d'accord?
Ah non, mais moi, je suis parti pour gagner. Et j'en suis de plus en plus persuadé.
D'accord.
Parce que j'offre la solution, j'offre le choix aux Français.
Donc il n'y a pas d'une radicalité. De revoyure, en quelque sorte, on se dit en automne.
Je mets sur la table des propositions qui sont radicales. Pourquoi? Parce que je pense que les vieilles idées, les vieilles solutions, les vieilles recettes, ça ne peut plus marcher. Donc il faut des solutions radicales. Je suis en même temps raisonnable. Je fais partie d'un parti de gouvernement. Bien. Donc j'offre le choix, justement, entre le chaos que serait le second tour entre Monsieur Mélenchon et le RN, et puis la continuation par d'autres moyens, par d'autres figures, par procuration du macronisme.
Édouard Philippe devra clarifier ses positions, notamment sur la laïcité ou sur le régalien. Petit bémol donc que Laurent Wauquiez apporte ce matin à un éventuel soutien à Édouard Philippe, dont il disait la semaine dernière qu'il pouvait incarner l'ordre et le sérieux.
Mais c'est ce que je vous disais. Avec lui, vous pouvez même pas le croire, le contraire de ce qu'il dit. Vous voyez, la semaine dernière, tout était beau et superbe, et là maintenant, il dit pratiquement l'inverse. Non, tout ça, c'est anecdotique. Moi, je pense que j'ai écouté d'ailleurs Édouard Philippe. Ce qu'on attend, on est tous d'accord.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, ton discours de dimanche?
Écoutez, formellement, c'était très professionnel. On est tous d'accord sur un certain nombre de généralités. Refonder l'école, bien évidemment. La transition climatique, évidemment. S'adapter au réchauffement climatique, évidemment. Le fait aussi qu'il faille faire un certain nombre d'efforts et que ces efforts soient justes. Mais où sont les propositions? Je vais vous dire, Apolline de Balaire, je ne laisserai pas cette campagne présidentielle, parce que pour moi, 2027, c'est la campagne et c'est l'élection de la dernière chance. Ce sera ou le sursaut ou le chaos. Et je ne la laisserai pas se faire escamoter vis-à-vis des Français. Pourquoi? Et je m'explique. Il faut des propositions. On peut, dire un certain nombre de généralités, des abstractions, sur lesquelles encore
c'était
une fois...
C'était des généralités un peu de la part de...
Mais où sont les propositions? Où sont les solutions? Je pense que, pour éclairer les Français, c'est le respect. Dans des moments qui sont des moments difficiles, encore une fois, la France est au bord du gouffre. Je pense qu'on leur doit la vérité. Et on leur doit des solutions, des propositions précises, chiffrées. C'est ce que je m'emploie à faire chaque jour. Et c'est projet contre projet, solution contre solution qu'ils devront trancher cette élection présidentielle.
On va rentrer dans le détail de vos propositions et notamment sur ce que vous dites, l'alerte sur les finances publiques. C'est aussi d'ailleurs l'expression utilisée désormais pour parler du comité qui va se tenir aujourd'hui. Mais j'entends bien donc que vous ne vous retirerez pas.
Non, mais je pars. Je suis parti et je porte un projet que aucun autre candidat ne porte.
Vous êtes parti dans la campagne, quoi.
Sur la prospérité, sur le régalien, il faudra changer de constitution, voilà.
Parce que
distingue
d'Edouard Philippe. Quand je vous demande si vous vous retirerez, ça peut prêter à confusion. Non. Vous êtes parti pour gagner, quoi.
Je suis parti et je vais gagner.
C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre.
Bon. Et j'en suis absolument certain, je serai au second tour.
Bruno Retailleau, aujourd'hui, comité d'alerte sur les finances publiques et vous ne cessez de dire que c'est en effet la dernière chance, la dernière étape, l'ultime pour la France. François Bayrou, hier, disait, l'année prochaine, la totalité de l'impôt sur le revenu ne suffira pas pour payer les intérêts de la dette. Lui aussi, alerte. Le dernier comité d'alerte des finances publiques qui s'était tenu il y a quelques mois, avant celui de cet après-midi, avait accouché de 6 milliards supplémentaires d'économies. Combien de milliards d'économies faudra-t-il faire pour rentrer à nouveau dans les clous?
Mais François Bayrou a parfaitement raison. La totalité, effectivement, de l'impôt sur le revenu est dévorée par le seul paiement des intérêts de la dette. Ça représente par jour, pour que les Français le comprennent bien, 210 millions d'euros par jour. C'est l'équivalent qu'on jette par la fenêtre du coût d'un hôpital local. Vous imaginez, cette bombe-là, elle va exploser. On ne sait pas s'il sera dans quelques mois ou dans quelques années. Mais elle va exploser.
Sur quoi faut-il faire des économies, alors?
Mais sur tout. Surtout, mais d'abord en étant juste, vous voyez. J'entendais dans le discours cette idée qu'il faut faire, il faut exiger un effort des retraités. Moi, ce que je veux d'abord, en termes de justice, parce que dans notre modèle social qu'il va falloir refonder, c'est cette idée de justice. Aujourd'hui, ça n'est pas juste parce que ce sont toujours ceux qui payent de l'impôt, qui cotisent, qui payent toujours plus. Ce que moi je veux...
Vous ne ferez pas appel davantage aux retraités.
Ce que je veux, moi... Et avant de faire appel aux uns aux autres, à ceux qui ont travaillé toute une vie, c'est faire appel et c'est exiger de ceux qui ne travaillent pas, qui pourraient le faire, des efforts. Je plafonnerai à 70% du SMIC la totalité des prestations sociales pour qu'à chaque moment, il y ait un écart significatif entre le revenu de l'assistanat, de la solidarité et le revenu du travail.
Quand vous dites la totalité, est-ce que ça veut dire que si on touche à la fois le RSA et des allocations familiales, par exemple ?
Je laisse les allocations familiales.
D'accord, c'est hors allocation.
C'est hors allocation familiale. Mais pour la première fois, j'instaurerai ce plafond. Deuxième chose, par rapport à ceux qui cotisent. Est-ce que vous trouvez normal que des Français qui cotisent puissent être moins bien remboursés qu'un étranger en situation clandestine qui, lui, bénéficiera de 100%, qui, lui, va donc...
Qui n'aura pas de reste à charge.
Et qui n'aura pas de reste à charge. Eh bien, ce que je veux, c'est que les étrangers qui viendront en France devront attendre 5 ans travailler et être là légalement pour commencer à toucher des aides sociales, etc.
Mais ils peuvent pas travailler 5 ans sans avoir la sécu. Ils auront quand même la sécu tout de suite.
Bien sûr, parce que, bien sûr. Évidemment.
C'est juste
sur les aides sociales, ce qu'on appelle non contributives. Voilà. Donc, c'est un changement de modèle que je veux. Moi, je veux que le travail paye. Le problème français aujourd'hui, c'est que le travail ne paye pas suffisamment parce que les gens qui travaillent portent toute la dépense publique et elle est pharaonique. Donc, je veux donner la possibilité aux Français d'avoir un 13e voire un 14e mois en travaillant un peu moins d'une demi-heure par jour. Voilà, et en tapant, pas en moins, évidemment, tous ceux qui diront qu'il faut travailler moins, nous enfoncerons comme on a déjà enfoncé la France, les socialistes nous ont fait cette belle promesse, travaillez moins, vous vivrez mieux. Total, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de pauvres en France, et on est un pays en voie de tiers-mondisation. Et donc, il faudra faire des efforts, mais d'abord...
Vous considérez qu'on est un pays en voie de tiers-mondisation ?
Mais bien sûr, regardez nos services publics. Ce qui est... Et c'est la raison pour laquelle je parlais de justice. Ce qui rend fou les Français, c'est de voir que on est les champions du monde de l'impôt, de la dépense publique. Jamais la dépense publique n'a été aussi forte. Jamais on a autant cotisé, payé, et jamais les services publics ont été aussi fragilisés. Regardez les urgences, l'hôpital, regardez la justice, on en a parlé déjà dans l'affaire Viana et dans bien d'autres affaires. Regardez beaucoup d'autres, l'école aussi. L'école qui est devenue une machine à fabriquer des inégalités sociales. C'est en France où finalement le lien entre l'élève, la réussite de l'élève et la position sociale des parents est le plus étroit, resserré.
Vous dites, Bruno Retailleau, quand j'arriverai au pouvoir, je décréterai l'état d'urgence numérique. Ça veut dire quoi ça ?
Parce que je pense que aujourd'hui, il y a un basculement du monde. Alors, il y a des guerres dans le monde, mais par ailleurs, il y a l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, c'est sans doute la plus grande bataille technologique que l'histoire ait connue, et on est mal préparé. Et on est en train de devenir une colonie numérique américaine. Et moi, je ne veux ni d'un protectorat américain sur la France et l'Europe, ni non plus d'un protectorat d'ailleurs industriel de la Chine sur l'Europe et sur la France. Donc, il faut réagir.
Deux questions encore, Bruno Retailleau. Il y a eu cette marche blanche après la mort de Louis, ce jeune homme qui a été tabassé à mort et laissé pour mort alors qu'il était normalement protégé par l'aide sociale à l'enfance. Dans cette marche blanche, il y a un certain nombre de jeunes qui ont décidé de faire leur ce slogan pour la peine de mort. Comment vous réagissez quand vous entendez ça ? Et après la mort de Liana, on avait fait un forum sur BFM TV et on avait eu quelques parents qui disaient pratiquement qu'ils étaient tentés de se faire justice eux-mêmes et d'aller jusqu'à tuer un éventuel assassin ou violeur de leurs enfants.
C'est exactement ce que j'allais vous répondre, ce que vous me dites là. C'est-à-dire que on a l'excuse aujourd'hui de minorité, on a cultivé en France l'excuse sociale, l'impunité. Une justice trop laxiste. Pas nécessairement à cause des magistrats, mais à cause de nos lois. Et forcément, cette impunité, cette justice laxiste, elle appelle deux réactions. Soit on crée des milices pour s'autodéfendre, ça n'est pas possible, soit on veut à nouveau la peine de mort. Ce que moi je propose, c'est une autre politique pénale. Une politique pénale où on assumera la sanction.
Mais la peine de mort...
Non. ça ne change rien et j'y suis opposé depuis longtemps. En revanche, je veux que on ait des peines minimales. Dès qu'on touche un policier, un gendarme, un sapeur-pompier, c'est la casse-prison. Dès qu'un jeune commet un délit grave, ce sera des courtes peines de prison. On arrête cet écart énorme entre les peines encourues, les peines prononcées au tribunal et les peines qui sont réellement exécutées. Je supprimerai le juge d'application des peines. Les Français ne savent pas, mais en France, vous avez un drôle de système. Vous avez d'abord un juge au tribunal qui va donner une condamnation, il va prononcer une condamnation. Et puis derrière, il y a un autre juge qui s'appelle le juge d'application des peines qui va défaire ce que le premier juge a fait. Ça ne peut pas durer. Il faudra aussi construire, bien entendu, des prisons. Il faudra, et c'est un point très important, je soumettrai au peuple français, par la voie du référendum, justement, cette grande question de la politique pénale qu'ils veulent. On rend en France la justice au nom du peuple français et c'est parfaitement naturel, démocratique, que ce soit le peuple français qui vote la politique avec pénale de son choix.
Avec ce référendum. Donc, un mot encore, Bruno Retailleau, vous avez peut-être vu ces propos d'une sénatrice paraguayenne qui a eu des propos sur Kylian Mbappé absolument inouïs. Elle parle d'un Camerounais issu de la colonisation qui ne sait même pas écrire. Je n'ai même pas de mots. Une femme méprisable et indigne de sa fonction, Kylian Mbappé est sorti de son silence et il a décidé de condamner ses propos. Comment vous réagissez ?
Il a eu raison et Mbappé a rendu fier beaucoup de Français du drapeau des Bleus, bien entendu, et de leur maillot. Ce que je voudrais dire à cette dame, c'est que la France est un modèle, le modèle républicain. Et dans ce modèle républicain, on n'est pas français par le sol, on n'est pas français par le sang, on est français par le cœur. On est français pas par la couleur de la peau, pas par la croyance, pas par ses origines, c'est parce qu'on aime la France. C'est ça le modèle républicain. C'est ce modèle-là que moi, je veux absolument porter très haut comme un étendard. Et je pense que l'assimilation à nos valeurs, il faut la remettre au cœur du débat public.
Merci Bruno Retailleau d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle et président des Républicains. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
Merci Apolline. À 8h47, le choix de la rédaction, Julie Brost à suivre et le mondial de Virginie avec les infos sur le terrain et en dehors. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h49 et vous êtes sur RMC, le mondial de Virginie. C'est avec vous, Virginie Fulpin. Bonjour.
Bonjour.
Dans un instant, avec toutes les dernières infos sur le mondial. Le Portugal et les États-Unis sortis cette nuit. Mais avant cela, le choix de la rédaction. Avec vous, Julie Brault. Bonjour, Julie.
Bonjour.
Vous êtes reporter au service police-justice d'RMC. 9 personnes placées en garde à vue à Grenoble hier matin dans le cadre d'une opération contre le narcotrafic. Un vaste coup de filet pour lequel une centaine de forces de l'ordre étaient mobilisées. Parmi elles, les policiers de l'UIN, l'Unité d'Investigation Nationale, composée de policiers spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée. Julie, vous avez obtenu l'autorisation très rare de les accompagner sur le terrain.
Oui, et pour les suivre, la journée commence très tôt, 5h50 du matin. Une centaine de policiers lourdement armés se dispersent en silence dans un quartier sensible de Grenoble. Objectif, interpeller simultanément une dizaine de suspects liés à un vaste réseau de trafic de stupéfiants. Pour les plus dangereux d'entre eux, les policiers d'élite du RAID sont présents et juste derrière eux, 6 policiers de l'UIN venus expressément en renfort depuis Paris se répartissent dans différentes colonnes d'assaut. Mandy est leur chef de groupe.
Nous, on appelle ça une phase de pétage, parce qu'on pète, on pète des portes. Donc voilà, il faut aller le plus tôt possible. Normalement, à 6h, les gens dorment encore. Quand vous réveillez quelqu'un, vous cassez la porte. Vous rentrez avec une colonne de 10 fonctionnaires de police cagoulés, armés. Généralement, il n'y a pas d'opposition. Tant mieux. On est dans une cité à Grenoble qui est quand même assez dangereuse. Donc voilà, pour intervenir en sécurité, il nous faut beaucoup d'effectifs de police. Ça nous permet, nous, d'avoir, comment dire, un impact un peu plus important.
Mais les policiers de cette unité, ils ne sont pas là seulement pour casser des portes, Julie.
Oui, car depuis sa création en 2023, cette unité a été sollicitée par 95 villes partout en France qui ont demandé son soutien dans des dossiers de narcotrafic, de règlement de compte ou encore d'enlèvement et de séquestration. Un soutien pour réaliser des interpellations, des perquisitions et des gardes à vue, mais aussi pour mener des investigations poussées en amont, explique le commissaire Philippe Lopin, chef de l'UIN.
J'ai 36 enquêteurs au sein de l'UIN chargés de gérer des techniques spéciales d'enquête, des écoutes et toutes les techniques policières. Mais également, on se déplace pour aller faire des surveillances, des filatures. on se rend compte que sur certains territoires, ils n'ont pas le temps ou les moyens d'investiguer à 100% sur certains dossiers. Donc, on aide nos collègues et on leur apporte un savoir-faire, mais surtout du monde, hein, pour essayer d'améliorer l'enquête, puisque plus on est nombreux, plus l'enquête est approfondie.
Mais alors justement, cette aide, elle est de plus en plus sollicitée par les villes qui tentent de faire face à la montée en puissance de la criminalité organisée.
Oui, parce qu'il faut bien comprendre que ces affaires, elles demandent du temps, des ressources humaines, mais aussi beaucoup d'agilité, car les délinquants, notamment liés au trafic de stupéfiants, s'adaptent et se réinventent pour échapper aux forces de l'ordre, assure le commissaire divisionnaire Jordan Coubry, chargé de l'investigation sur l'agglomération grenobloise.
Il y a aussi l'intérêt, concrètement, d'avoir des têtes que nos délinquants ne connaissent pas. Et donc, ces collègues parisiens sont clairement les bienvenus, parce qu'ils passent beaucoup plus inaperçus que d'autres collègues locaux qui finissent à force par être reconnus par les délinquants. Et donc, on va dire qu'avec l'UIN, on ratisse un peu plus large. On est d'autant plus proactif. On va monter des dossiers plus étoffés, cibler plus d'individus et être en capacité de pouvoir réaliser plus de dossiers à l'année.
Depuis le premier semestre, l'UIN a été engagé sur 56 dossiers différents, soit une hausse de 70% par rapport à la même période l'année dernière. Et aujourd'hui, ce sont les petites et les moyennes villes qui requièrent le plus son soutien.
Merci beaucoup Julie Brault pour cette immersion exclusive pour RMC. Julie, reporter police-justice, ici vous retrouvez cette enquête sur l'application RMC, bien sûr. L'Espagne et la Belgique rejoignent les quarts de finale de la Coupe du Monde.
RMC, le mondial de Virginie.
Et Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. Les Belges terrassent les États-Unis 4-1 et l'Espagne a battu le Portugal 1-0.
Ouais, le Portugal qui sort, c'est la fin d'une époque. Hein. Cristiano Ronaldo a disputé la dernière des 6 Coupes du Monde auxquelles il a participé. Alors, il n'a jamais remporté de mondial, mais quand même 3 titres, 2 Ligues des Nations et l'Euro 2016, on se souvient, face à la France en finale. C'est ce qu'il retient. Quand je suis arrivé, le Portugal n'avait jamais rien gagné. Avec moi, ces 3 titres, Cristiano Ronaldo ou l'art de la passe décisive pour lui-même. Il était assez triste. Hein.
La Belgique, elle, se moque de Donald Trump pour fêter sa victoire contre les États-Unis.
Ouais, Romelu Lukaku a imité la fameuse danse du président américain pour fêter le 4e et dernier but de la Belgique, victorieuse 4-1 des États-Unis, donc cette nuit. Et ensuite, c'est la presse belge qui enchaîne ce matin en titrant « Allô, Donald ?» Le président américain avait appelé Gianni Infantino pour demander un réexamen du carton rouge infligé à Balogun lors du match contre la Bosnie. Et le président de la FIFA s'est exécuté. L'attaquant américain a pu jouer cette nuit. Ça n'a rien changé. Il n'a pas marqué. Mais il y a bien eu une ingérence politique. L'UEFA, l'instance européenne, estime qu'une ligne rouge a été franchie et parle d'une décision de la FIFA inédite, incompréhensible et injustifiable. Même Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, se dit choqué. Bah oui, on peut le dire quand même. Il s'y connaît un peu en coup fourré. Hein.
Kylian Mbappé, soutenu de toutes parts après les attaques racistes d'une sénatrice paraguayenne.
La FIFA, la Fédération française, Emmanuel Macron, j'en passe, hein, tout le monde a condamné les propos abjects de Céleste Amaria. La sénatrice paraguayenne reproche à Kylian Mbappé de ne pas avoir serré la main du gardien du Paraguay en fin de match et elle a prononcé des phrases racistes, scandaleuses, insupportables. Je ne vais pas les répéter ici. Kylian Mbappé lui a répondu parfaitement. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. La sénatrice a décidément tout pour plaire. Elle insiste en accusant Kylian Mbappé de sexisme parce qu'il lui a répondu. Bon, faudrait peut-être pas tout confondre. Je vois pas trop où est le sexisme là-dedans. Et elle exige maintenant des excuses, donc non, rien.
C'est un arbitre français qui va arbitrer le 8e de finale de l'Argentine-Égypte ce soir.
Oui, François Le Texier a été désigné avec ses 2 assistants pour arbitrer le match. À votre avis, est-ce que ça fait plaisir aux Argentins? Voilà, bon, on a la réponse. Non, évidemment, hein, disons que les relations entre nos deux pays sur le foot sont pas au beau fixe depuis la finale 2022 et encore une fois des attaques racistes de la part de certains joueurs argentins vis-à-vis de l'équipe de France. Donc les médias argentins se méfient beaucoup plus de François Le Texier que de l'Égypte en face de Lionel Messi et de ses coéquipiers. La principale chaîne de télé sportive argentine argumente en disant que c'est lui qui a expulsé l'Argentin Nicolas Tagliafico qui joue à Lyon lors d'un match contre Monaco. Mais bon, vu sa faute, un tacle assassin, ça aurait été difficile de faire autrement, même si en ce moment, je crois comprendre que les cartons, c'est un peu compliqué.
L'Angleterre a a du mal à digérer sa qualification pour les quarts de finale.
Alors, les Anglais ont battu le Mexique 3-2 et quand Harry Kane est arrivé en interview après le match à la télé anglaise, il s'est mis à parler comme ça.
Unbelievable support.
Voilà, il avait totalement perdu sa voix, peut-être parce qu'il a chanté trop fort avec les supporters anglais à la fin du match. Alors, vous reconnaissez Wonderwall qui est chanté à chaque fois après la victoire. Et Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis, a réagi. Tu vois, Harry, c'est du boulot de chanter ce morceau.
Hein. Il est gonflé.
Oui, il est gonflé. Mais bon, c'est toujours mieux pour Harry Kane que pour son pote Jordan Anderson. Lui, il était remplaçant, surexcité en fin de match. Et il a couru pour enjamber les panneaux publicitaires et aller voir les supporters. Il est tombé, il s'est fracturé le poignet. Non. Il rejouera pas de la Coupe du Monde. C'est vraiment la blessure la plus bête de ce mondial.
Ouais, peut-être. Bah, attendez, c'est pas fini.
Non, c'est
merci Virginie Philpin. Argentine-Égypte, c'est à 18h. Suisse-Colombie aussi, à 22h. Des matchs à suivre sur RMC, évidemment. Dans un instant, les GG, les grandes gueules avec Alain Marchal. Bonjour Alain.
Eh bien, avec nos grandes gueules, on reparlera bien sûr de la polémique autour de Kylian Mbappé. On doit tous faire bloc derrière Kylian Mbappé maintenant et nous-mêmes peut-être répondre à la sénatrice paraguayenne. On reviendra sur la course à la présidentielle. Jordan Bardella se dit serein. Bon, ça, c'est une chose, c'est logique, il peut pas dire autrement. Mais est-ce qu'il est prêt, Jordan Bardella? Est-ce que finalement, il a les électeurs vraiment du RN derrière lui si c'est lui qui doit être candidat? On en parlera dans les grandes gueules. On reviendra aussi sur un jeune homme qui m'a abordé à la sortie des locaux ici. Il a envoyé 300 CV à des entreprises pour trouver un stage cet été. Il a fait de belles études de commerce et de finance et il trouve pas de stage. 300 CV, aucune réponse. Donc, eh ben on va s'en occuper. Il m'a même envoyé une petite vidéo. On va regarder sa vidéo et puis lancer un appel pour lui. Peut-être qu'on va lui trouver son stage. Voilà, vous êtes avec les GG. À tout de suite jusqu'à midi.